Dans le Tempo, épisode 74, c'est le dernier de la saison. On va essayer d'en profiter. C'est parti. Ça va, mon cher Daz?
Ça va, Salman, et toi?
Bah écoute, très très bien. Je souhaite la bienvenue à tout le monde dans DLT, le podcast des passionnés de musique.
Oui, mais pas que.
Mais pas que, des passionnés tout court.
Exactement, exactement. Épisode 74.
74.
Hein. La Haute-Savoie, on nous l'a dit.
Oui, Ambroise apparemment a un faible pour la Haute-Savoie pour 74.
Ouais.
La Haute-Savoie, ouais. C'est, moi, je ne savais pas que c'était 74.
Mais écoute, la Haute-Savoie, je l'ai deux fois. Si jamais vous aussi, vous faites la collection des départements, là, les trucs qu'il y a dans les cordons bleus.
Ah oui, le sur le frigo.
Ouais, j'ai plusieurs Haute-Savoie à larguer si vous voulez faire du trade.
Ça t'intéresse, Ambroise, ou pas? Ça, non,
tu... J'ai arrêté d'essayer là. Enfin, la complète.
Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué.
Parce que Daz, alors tu sais qu'on se retrouve un mercredi sur deux avec fois des invités pour explorer un peu le monde de la musique.
Bien sûr, mais qui avons-nous aujourd'hui?
Et oui, et nous avons, figure-toi, Ambroise Villaume et Nicolas Lockhart. Nico, ils sont membres du groupe Astral Bakers.
Astral Bakers.
Ouais, et le groupe est très très stylé. Ils ont sorti un album là, en février dernier.
Je l'ai entendu.
On va s'écouter des extraits.
Je l'ai écouté.
Ouais.
Il m'avait dit, écoute ça, c'est très doux. Et moi je lui ai dit, mais mec, je suis dans les transports, je suis obligé d'écouter du Wu-Tang ou du Bob.
C'est vrai, c'est vrai. C'est moins adapté aux transports. On va voir ce qu'ils en pensent, si c'est moins adapté aux transports. Bon, merci en tout cas les gars d'être avec
merci
nous.
Merci à vous.
Bienvenue.
Ça nous fait plaisir. Je précise d'ailleurs que vous partagez, enfin dans le groupe, vous êtes quatre. Vous êtes aussi avec Théodora et Zoé Hochberg. À qui on a proposé d'être là, mais c'était un peu plus difficile en termes de planning, etc. Mais vous allez fièrement représenter Astral Bakers.
On espère.
Oui, mais oui, ça, j'ai pas trop de doutes. Pour que je vous présente quand même rapidement, parce que donc vous êtes quatre, Zoé normalement à la batterie, Nico, toi, tu es à la guitare, on a Théodora qui est à la basse, et puis toi, Ambroise. Alors, on te connaît aussi sous ton pseudonyme Sage, c'est parce que tu mènes aussi une carrière de solo sous ce nom. Toi, tu es à la guitare et au chant.
Ouais.
Normalement, tu sais, Daz, dans cette émission, on reçoit des gens qui ont une riche expérience, rarement un premier album, etc. Astral Bakers, ils ont sorti un seul album.
Ah,
mais, il se trouve que chaque membre, en fait, vous avez des expériences très riches depuis des années dans la musique en réalité. Vous collaborez avec beaucoup de gens, etc. Des projets solo, des projets où vous accompagnez sur scène, notamment des artistes. Là, je pense directement à Clara Luciani, Heidi De Preto, Fishback, Pomme, plein d'autres, Laura Cahen aussi. Vous œuvrez, en tout cas, dans la musique depuis très longtemps. Et puis vous êtes formé un peu en sous-marin il y a quelques années pour enfin sortir The Whole Story, cet album donc en février. Et au vu de leur expérience, Daz, je pense qu'il va y avoir largement de quoi dire. Voilà. T'en as pensé quoi toi de l'album Rapidos?
Ben ça passe très bien.
Hein. Ouais.
Ouais. Franchement, ouais. Très 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 cool. Vraiment pour le coup. Bonne vibe.
Moi, je trouve qu'il se tient de bout en bout, cet album. Qu'il y a une vraie proposition. En fait, c'est beau, tout simplement. Je pense un truc qui doit revenir quand on parle de votre musique. C'est de la belle musique.
Un peu court, quand même. Hein.
L'album,
45
ouais,
minutes.
Ouais, mais en même temps, tu sais, c'était une volonté de faire un album pas trop long ou
C'est assez long hein, pour un disque, en
ouais.
vrai. Parce que le standard, il est lié au format vinyle, ouais. à la base. Mmh. Et un format vinyle, c'est limité par la place qu'il y a. Donc, on ne peut pas faire... En fait, au bout d'un certain temps, tu dois faire un double vinyle. Et donc, à la base, c'est plutôt autour des 40 minutes, le format 40-41. Et du coup, nous, on était à 45.
On a dû batailler.
Et c'était déjà compliqué parce que faire un double vinyle, ça veut dire faire un objet qui est beaucoup plus cher à produire, du coup, qui se vend plus cher. Donc, on se disait, bon, c'est quand même un peu con de sortir
parce que,
un vinyle.
La sortie vinyle, c'était une idée dès le départ de la conception de l'album. C'était le but de le sortir en vinyle. Parce qu'on en avait discuté de ça aussi.
Ouais.
Avec,
c'est vrai que c'est une stratégie qu'on observe de plus en plus, mais pas forcément une nécessité absolue. Ça se voit de plus en plus, quand même, de vouloir sortir un vinyle.
Au moment de passer à cette étape-là, on a réalisé, en fait, que quelque part... c'était une musique qui se prêtait vraiment hyper bien à ce format-là. Si ce n'est que c'était justement un peu long. c'était le truc qu'on nous a reproché un peu, c'est que du coup, il fallait faire des sillons un peu plus petits et donc un peu moins pratiques. C'est pour ça aussi que les 45 tours, par exemple, où en général il n'y a qu'une ou deux chansons par face, ça sonne mieux que les 33 tours. Enfin, les DJ, par exemple, ils sont vraiment fans, enfin, les DJ à l'ancienne sont fans des 45 tours parce qu'il n'y a que deux chansons par face. Le sillon, il est plus large, le son, il est plus ample. C'est vrai que à l'époque où j'ai commencé à aller chercher un peu des vinyles et tout, quand je passais en 45 tours, ça me paraissait deux fois plus profond, deux fois plus fort et tout. Et c'est vraiment un truc physique de... Il y a plus de place pour mettre plus d'informations, de sons dans un canyon microscopique quoi.
C'était pas possible du coup de presser l'album pour le sortir sur 7 45 tours par exemple.
Il y a des gens, il y a des puristes hein, qui font ce genre de truc. Non mais c'est vrai en fait. Mais après tout est une question de d'objet, c'est-à-dire que on n'est pas non plus on n'a pas envie de faire un objet qui va coûter 100 euros pour que personne l'achète et personne l'écoute. C'est un truc, je pense que c'est rigolo à faire, mais ouais.
Ouais, tu veux dire un truc, Nico, par rapport à ça ?
Non, mais la finalité de ça, enfin, c'est un réglage qui se fait un peu en route. C'est sûr qu'on a tous, en faisant en plus du rock, on a tous envie de faire un disque, un vrai disque à l'arrivée physique. La réalité de ça, c'est que derrière, c'est quand même plus écouté en volume, en streaming. Moi, le premier, il y a des disques que j'ai en vinyle que j'écoute aussi pas en mal streaming, directement en streaming parce que
pour des
raisons pratiques en fait. T'as pas toujours ta platine ni le disque à ce moment-là. Quand t'as envie d'écouter ça, t'es dans la rue, tu mets pas ton vinyle dans la rue. Et du coup.
Attendez!
Non, mais ça existe en plus.
Mon baladeur, mais il faut pas bouger surtout. Hein. Ça peut sauter à tout instant. Et du coup, en fait, c'est un réglage d'ensemble. C'est comme nos choix d'enregistrer live, de ne garder que nos instruments à nous. On s'est mis quelques contraintes aussi. Enfin, on l'a vraiment pas vécu comme des contraintes. C'est juste qu'on s'est dit, on a envie de faire comme ça.
Non, mais tu dis règles du jeu, je trouve que c'est vraiment ça. On s'est dit, cette musique-là, on va la faire avec ces deux guitares-là et pas d'autres, cette basse-là, cette batterie-là et ce lieu qui est mon studio. Et puis, c'est tout. Et du coup, on s'est interdit de rajouter. Le moindre instrument un peu extérieur à cette
famille-là. Pas de synthé, pas de piano.
Ce que je vous propose, c'est on va en parler justement. On rentre vraiment dans le cœur de cette émission. On va faire en gros une première partie. On va parler justement un peu des défis artistiques, techniques et des envies que vous aviez avec cet album. Et puis dans une deuxième partie, un truc qu'on aime bien faire dans cette émission, on parlera un peu plus des aspects métiers entre guillemets. Parce qu'en plus, vous avez une expérience assez folle quand même autour de. Vous faites plein de choses différentes, ce qui est souvent le cas de beaucoup de musiciens, et cette expérience est toujours intéressante. Donc ça, c'est toujours intéressant d'en discuter, Daz.
Je suis complètement d'accord.
Mais bon, commençons avec cette première partie sur votre son, justement, parce qu'on n'a pas précisé, on a compris très vite ce rapport au vinyle que vous avez, et c'est vrai que on comprend assez vite quand on connaît votre musique, qui s'inscrit dans une culture plutôt folk, rock, globalement acoustique, assez épurée de manière générale, avec cette culture très nord-américaine en fait, on comprend qu'il y a un rapport au vinyle, à ce format ancien, parce que les grands jalons aussi de la musique que vous représentez, ils ont été établis sur vinyle, j'imagine, enfin, ça doit être un truc un peu qui vous habite comme ça. Comment vous la décrivez-vous, cette musique ? Je sais que vous avez un terme que vous aimez bien reprendre, mais si je peux vous laisser vous en parler un petit peu, c'est quoi cette musique esthétiquement ? Comment vous pouvez la qualifier ?
Bah, c'est vrai qu'on parle pas mal de soft grunge. L'idée, c'était un peu de mélanger des chansons qui sont plutôt, à la base, effectivement, presque des ballades, en fait, enfin, des chansons assez douces, avec pas mal de mélodies, des harmonies un peu travaillées et tout. Mais de leur trouver une forme de un aspect brut et peut-être un peu de j'ai le mot rugosité qui me vient, mais j'aimerais trouver un mot un peu plus beau, mais quelque chose de comme ça, de qui soit pas lisse et qui
granularité un son granuleux,
et du coup c'était un peu l'idée de faire comme une sorte de grunge ou de rock qui serait un peu apaisé, quoi, comme si on devait faire du rock, mais en étant assis et en étant un peu dans la mélancolie ou l'introspection. C'est un truc un peu un mélange de ça. Et je crois que on avait vraiment à cœur de suivre un peu cette idée qui se situe un peu à une frontière, quoi, entre à la fois une forme d'instinct un peu plus brutal de son saturé, mais toujours un peu au service de quelque chose d'assez raffiné, en fait. Et donc c'était toujours assez intéressant de savoir si ce qu'on faisait se situait toujours dans cette espèce de frontière un peu entre ces deux mondes un peu irréconciliables, quoi. Enfin, en général, c'est vrai que c'est un peu l'un ou l'autre, et du coup on essayait de trouver le point commun un peu là-dedans.
On peut, peut-être parce que j'imagine que nos auditeurs n'attendent que ça, on découvrir un premier morceau de l'album, c'est celui d'ouverture, Shelter, qui est aussi un titre un peu emblématique, je crois, pour vous, qui représente bien le groupe d'une certaine manière. Ouais.
Ouais.
C'est le.
Non, non,
c'est aussi.
Complètement. Et en fait, c'est un peu le premier morceau qui est né d'un moment de groupe. En fait,
d'une improvisation.
Les premiers morceaux sur lesquels on a travaillé, c'était pas mal des idées d'Ambroise qu'il avait déjà dans sa musette, un peu de guitare et de voix. Et puis, on a fait notre sauce tous ensemble à partir de ces morceaux-là. Et sur lesquels il n'y avait pas spécialement d'arrangement, donc on a vraiment découvert ensemble et puis fait notre truc, ça a donné ce que ça a donné. Et puis celui-là, il est né un peu plus d'un truc de musique.
C'est toi qui a commencé par jouer
Le riff
du couplet, quoi.
Ouais.
On était en studio tous ensemble, on travaillait sur un autre morceau, je ne sais plus lequel c'était, et puis t'es commencé à jouer ce truc un peu en boucle et nous on réglait des trucs et à un moment
tout le monde s'est mis à jouer là-dessus.
C'est cool ton idée de guitare. Voilà. Et c'est vrai que c'est né comme ça un peu d'un moment de jam quoi à l'ancienne.
Mais alors du coup alors je sais pas, peut-être on va l'écouter d'abord.
Ouais, on peut l'écouter, ça te va?
Vas-y.
Allez, garde ta question et
bien sûr, toujours.
On va enchaîner après le morceau.
Oui, très cool.
Mais alors, une question me vient.
Oui, Daz, dis-nous tout.
Mais il chante en anglais.
Et pourquoi
on avait dit qu'on la ferait pas, mais je suis obligé de la faire. C'est Jacques Toubon.
Non, mais c'est vrai qu'il y a eu le choix de l'anglais. Ça, c'est vrai. En même temps, ça colle avec cette musique, quoi. Non, je sais pas. Ouais. Qu'est-ce que.
Ouais, je crois que t'as la réponse, en fait.
Ouais.
Ça colle, ouais. Et puis. Moi, en ce qui me concerne, j'ai toujours écrit en anglais. Parce que. Je ne saurais pas comment tellement expliquer le point de départ, mais c'est que les premières chansons que j'ai faites et que j'ai bien aimées, je me suis dit « Ah tiens, il y a un truc, c'était en anglais ». Et aussi parce que j'avais l'impression que le fait d'avoir comme ça une distance avec la langue, ça me permettait de, je sais pas, de dire des trucs peut-être plus personnels ou de dire des choses que je pouvais assumer, alors qu'en français, ça me ferait trop bizarre de le dire.
C'est exactement ce que nous disait Jeannadette dans un des derniers épisodes, en disant « c'était une façon, c'était une pudeur aussi dans un premier temps de passer par l'anglais. »
Se protéger, ouais.
Ouais, je pense, et puis je crois que je préfère ma voix en anglais qu'en français.
Okay. C'est un instrument différent, en fait, comme langue. Il y a un moment, il y a un truc de même
fréquence,
fréquentiel. qui ne se passe pas de la même façon en français et en anglais. Et en plus, comme c'est pas notre langue maternelle, il y a vraiment l'utilisation de la langue comme un instrument. Mmh. Au-delà du texte ouais. lui-même, il y a une sonorité qui est hyper intéressante. Et en tout cas, pour ce registre musical, c'est, je pense que nous, clairement, ça correspond beaucoup mieux à ce qu'on voulait faire.
Et puis, l'anglais, il a une façon de se placer dans la musique aussi. Quelque part, la voix, elle se place au milieu des instruments. Là où en français, par exemple, quand on mixe un morceau chanté en français, on est obligé de mettre la voix assez forte pour qu'on puisse comprendre, parce qu'en fait, le français est une langue qui est beaucoup plus sombre en termes de sonorité, de timbre, quoi, que l'anglais. Il y a beaucoup moins de nasalité, de fréquence un peu... qui perce souvent
pour un l'intelligibilité mix. En fait tu veux dire que
ouais, ouais. pour que ce soit intelligible on est obligé de la mettre assez forte et ça a presque donné un style quoi au son français et quand on pense je sais pas même à Georges Brassens en fait je veux dire qui c'est un des premiers quoi de qui enregistre vraiment un texte qui a un truc à raconter la voix est très forte et derrière c'est une espèce de
c'est plus de un playback un accompagnement un peu lointain,
chez Gainsbourg, c'est pareil. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est obligé de faire exister le texte français. Il est obligé de prendre le dessus. Mmh. Et aussi, quand on écoute une chanson en français, je trouve que c'est le texte qu'on capte en premier et la musique ensuite. Mmh. Quand c'est en anglais, j'ai l'impression que c'est un ensemble et que...
Oui, la voix est un instrument parmi...
J'aime ça, quoi. Même si le texte peut être hyper travaillé et dire un truc important et tout... Mmh. On reçoit autant le texte que la musique.
Est-ce que c'est la raison pour laquelle, alors, on peut même étendre ça au songwriting de manière générale, pas seulement le texte, etc. Mais je sais que vous travaillez vraiment, comme vous l'avez dit, en une prise. C'est-à-dire que vous êtes ensemble dans la même pièce, dans ton studio, Ambroise. En gros, j'imagine que ça part d'espèce de jam, quelque chose comme ça. Et petit à petit, vous arrivez à affiner des morceaux. Puis quand il faut vraiment les enregistrer, tous ensemble. Mais j'imagine que c'est pas non plus, vous enregistrez pas la prise finale dans la foulée de la composition, par contre, quand même.
Ça arrive parfois.
Ça arrive même.
Ça arrive.
Shelter, c'est pas loin de ça.
Ah ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'un jour, paf. Enfin, c'est limite, c'était fait en un jour ou ça c'est.
Franchement, ça a été fait en 3 jours en tout, je pense.
Ah ouais.
Entre la première idée de guitare. Le lendemain où on s'est vu pour finir,
on avait la suite du morceau.
Moi j'ai écrit le texte en gros dans la soirée et après on s'est revu pour l'enregistrer. C'est la chanson qu'on a écoutée.
Et c'est dans l'idée de préserver justement ces moments.
C'est dans l'excitation du moment, je pense aussi, parce qu'il y a quand même ce qui est toujours génial là-dedans, c'est quand t'as l'impression de tenir un truc. En tout cas que t'as l'impression. Toi, ça te plaît. Écouter ça, ça te fait plaisir et le jouer, c'est génial. Et du coup, il y a un moment, cultiver ça, c'est quand même génial. Et du coup, y aller vite, c'est aussi que si Ambroise a écrit ce texte aussi vite, je pense que c'est parce qu'aussi il avait la musique dans la tête et que ça l'obsédait un peu. Je pense qu'on avait tous ce truc d'obsession avec ce morceau qui fait qu'on a tous eu envie de s'y remettre assez rapidement.
Et puis il y a aussi le fait qu'on était en plein milieu du process d'enregistrement, c'est-à-dire que on était en train d'enregistrer d'autres morceaux et que du coup on était prêt à enregistrer parce que parfois on peut composer des chansons et on sait qu'on va pas se revoir pendant 1 mois, 2 mois. Donc là on était vraiment en plein dedans et c'est un morceau qui est arrivé assez tard dans l'histoire des Astral Bakers quoi par rapport à c'est un des derniers morceaux qu'on a écrit et composé ensemble.
Et pourtant il est en premier
parce que en fait c'est quand on l'a fini on s'est dit ah en fait c'est celui qui représente le plus l'énergie qu'on cherche depuis le début quoi et donc il est arrivé vraiment à un moment un peu magique d'alignement de planètes entre on était branchés, on avait fait tous nos tests sur plein d'autres morceaux, on commençait à vraiment avoir un peu notre son qui se développait et là on a le morceau qui arrive et qui à la fois représente le mieux
l'état d'esprit
exactement et du coup ça a été pour ça que ça a été très fluide mais après il y a d'autres morceaux qu'on adore aussi et qui ont eu un process complètement différent c'est à dire que c'est pas pour autant que c'est le meilleur ou celui qu'on préfère ou qu'il est c'est juste que il a cette particularité d'être un peu venu sans effort quoi et entre le moment où il a été initié et le moment où il a été figé
et maintenant que t'en parles j'ai l'impression que c'est le Je me demande si c'est pas le seul qui n'a pas eu sa note. En fait, on a l'habitude de travailler quand on écrit avec un téléphone. On enregistre au milieu de la pièce pour pas justement rentrer dans des histoires d'ordi, de micro, de trucs. Et du coup, normalement, on joue tout en acoustique, comme ça, la batterie, les guitares. On équilibre à peu près les niveaux pour qu'on entende bien dans le téléphone et c'est fini.
Ouais, c'est que du dictaphone.
C'est que du dictaphone. Et en fait, je crois que c'est le seul pour lequel on n'a pas fait.
Il n'y a même pas eu de.
Il n'y a pas eu de dictaphone. Celui-là, on l'a écrit comme ça.
C'est marrant parce que. Alors, j'ai précisé que c'était en une prise, vous étiez tous dans la même pièce. C'est même pas du. C'est-à-dire que. Enfin, j'imagine que c'est enregistré piste par piste, mais l'idée, c'est que comme il y a plein de repises des micros, des autres instruments, etc., c'est vraiment. C'est pas on garde, genre, là, sur cette guitare, on était bien sur cette prise, et puis on garde celle de la basse de la seconde prise, etc. C'est vraiment. C'est pas one shot, c'est tout.
Au-delà de la prise live. Déjà avec ce que tu dis ça serait compliqué, mais en fait on joue sans clic aussi, donc il y a un tempo qui bouge mécaniquement d'un morceau à l'autre, et du coup en fait c'est pas faisable du tout.
C'est marrant parce que du coup c'est vraiment un mode de fonctionnement à l'ancienne
complètement.
Ouais, mais en fait ce qui nous intéresse là-dedans, bon, déjà c'est aussi que on a fait beaucoup d'autres projets pour nous, pour les autres qui avaient des process complètement inverses, où c'était de l'empilement de pistes, des prods, où c'était des prods qui duraient des mois et des mois. Et je pense que ce projet de groupe a aussi, est venu aussi de cette envie d'un retour un peu à l'essentiel, à un truc un peu.
Quoi, vraiment.
Ouais, et d'une recherche un peu d'absolu, quoi, entre guillemets, de qu'est-ce qui nous réunit en tant que musiciens. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant de revenir à ce truc de la performance live ensemble, parce que en fait, tout ce qu'on essaie de recréer un peu artificiellement en faisant les choses piste par piste, bah les choses s'alignent beaucoup plus quand on les fait ensemble, parce que une petite inflexion à un moment va provoquer un truc chez un autre. Membre du groupe.
Mais c'est plus organique, c'est plus.
Ouais, et puis en fait, c'est beaucoup plus vivant aussi. Donc, il y a beaucoup moins besoin de rajouter des choses pour créer un peu des effets ou des montées, des sensations. C'est qu'en fait, tout est là et ça demande juste un peu plus de confiance, je pense, en ce qu'on est en train de faire. Et ouais.
Et même dans cette continuité, Nico, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire qu'il y a vraiment que les quatre pistes, c'est-à-dire qu'il y a les deux guitares, il y a la basse, la batterie, il y a vos quatre voix, ouais. C'est tout. Il n'y a jamais d'ajout plus important, il me semble. Sur
alors si on fait, on a rajouté
un orchestre symphonique.
Voilà.
Non, c'est pas vrai.
Oui, j'ai écouté la même, je disais ah bon, j'ai raté ça. Comme ça.
Pourtant, c'est ce qui a coûté le plus cher. Non, absolument pas. Non, c'est arrivé de refaire des guitares. En fait, par exemple, pour des effets, on a doublé des voix. Ouais. Moi, sur le morceau Easy, je chante deux fois, mais c'est pour un effet. Enfin, on aurait peut-être pu mettre un chorus, mais c'était plus sympa avec deux voix.
Comme Tupac.
Ou Elliott Smith. et en fait, je veux dire, cette contrainte-là, elle est hyper intéressante. Faut pas que ça nous enferme non plus. Donc, je veux dire, on a des moyens aujourd'hui technologiques pour faire des trucs incroyables. C'est juste qu'on s'est dit.
Vous voulez pas faire du vintage pour le vintage, quoi. C'est...
Non, pas du tout. En fait, ça apporte quand même autre chose. C'est que. Et arrête-moi si je me trompe, mais je crois que ce groupe, il est un peu né d'un moment particulier. C'est quand on accompagnait avec Théodora, en fait, on était musicien pour la tournée de Sage. Ambroise.
Donc le projet d'Ambroise, oui.
Et en fait, ce qui était super, c'est qu'on a eu pas mal de moments de musique où il fallait réadapter l'album d'Ambroise, qui était quand même assez produit, même si c'était un album qui était quand même très acoustique. Et en fait, tous ces arrangements-là et toute cette structuration des morceaux pour le live, pour que ce soit vraiment cool... et que ça marche bien et qu'on soit que 4 sur scène et que ça se passe bien quand même et qu'il manque rien, ça a pris un petit peu de temps et en même temps on s'est assez vite trouvé, j'ai l'impression, là-dedans. Et en fait, on s'amusait beaucoup à faire ça. Et du coup, ce travail-là nous a vite fait comprendre aussi que ça serait sympa de faire de la musique dans ces conditions-là. Et en fait, ça a un avantage de travailler comme ça, c'est que d'une, on peut composer en étant juste avec une guitare dans son coin, et puis quand on retrouve les autres, tout le monde fait sa batterie, sa basse, sa guitare pour compléter l'ensemble. Et puis là, pour le coup, on a vite trouvé une patte où on a un peu tous notre truc dans ce groupe, donc c'est assez rigolo. Au début, c'était peut-être un peu plus flou, et puis ça s'est quand même relativement précisé avec le temps. Et ça a un avantage, c'est qu'il y a un moment quand le morceau marche pas, et pourtant que tu l'aimes, t'as la possibilité de repartir à zéro en 3 minutes.
Ouais.
Enfin, je veux dire, c'est pas grave. Ce que t'as enregistré, si ça va pas, s'il manque quelque chose, tu te dis pas, vas-y, on va sortir un synthé, un truc. Il n'y a pas besoin. On sait qu'on peut faire sans. On sait qu'on peut refaire, nous, un arrangement différent. Et ça va être une partie de guitare différente, une basse. Ou au contraire, plus personne joue. Enfin, juste batterie basse, par exemple. Et puis ça marche, et du coup on crée le relief comme ça, et le fait de ne pas enregistrer, ça nous aide aussi à remettre en question plus facilement les choses, parce que c'est vrai que quand tu t'as pris du temps pour faire le super son de guitare, la partie sonne trop bien, c'est aussi plus difficile de la mettre à la poubelle, alors que nous, finalement, on peut redémarrer à zéro sur la prise d'après, et puis
c'est pas grave.
C'est pas grave, et c'est pas grave.
Oui, donc c'est constamment rester sur la table à dessin et drafter jusqu'à ce qu'on soit content du truc, quoi.
Ouais.
Je dis ça sans connotation qualitative particulière, en fait. C'est ça peut-être qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est de se dire que c'est des vrais musiciens qui font de la musique, quoi, et qui passent pas du temps à faire de l'informatique. Et je trouve que c'est un truc qui est forcément un peu plus loin aujourd'hui, parce que on parle beaucoup musique électronique et que
puis surtout, ce qui est intéressant, après vous pourrez dire ce que vous en pensez, c'est que moi j'aime pas le côté t'es chapelle ou t'es genre vas-y moi je vais faire que enregistrer, tu vois, limite sur bande pour faire que ça, enfin tu sais, ça devient une philosophie, une idéologie, et presque tu ne jures que par ça, voire tu méprises un peu le reste. Mais en fait là c'est pas le cas, vous, parce que vous travaillez de plein de manières extrêmement différentes, vous l'avez dit, avec d'autres artistes, etc., et que c'était aussi juste, c'est peut-être trouver une autre essence à votre musique, mais qui est pas supérieure ou inférieure, quoi que ce soit. C'est juste une autre approche, quoi.
C'est une autre approche, et puis c'est l'approche de dans ce moment pour ce groupe, et peut-être que là, le deuxième album, on l'a déjà un peu commencé, il va dans une continuité un peu de cette recherche là il va même encore plus loin là dedans peut-être que le troisième, ça sera un album synthé voix, j'en sais rien, enfin
ouais.
En fait, c'est juste que, en tout cas, on avait tous les quatre cette envie très forte, en même temps, de revenir à quelque chose de beaucoup plus spontané, assez rapide aussi dans le...
Parce que c'était un peu trop lourd, les travaux que vous avez fait à côté, peut-être.
Parce que, un peu en réaction, je pense, à pas mal de choses, ou peut-être qu'on avait chacun un peu parcouru ce chemin-là différemment sur d'autres projets ou sur des projets perso. Théodora, elle a aussi son projet à elle, qui est beaucoup plus électro, qui est beaucoup plus produit sur ordi, justement. C'était de se dire, ok, qu'est-ce qui fait c'est quoi l'intérêt d'un groupe, quoi, par rapport à quelqu'un qui peut produire sa musique sur un ordi? C'est quoi, qu'est-ce qui fait qu'on a un truc en plus qu'un artiste solo qui va empiler les pistes et les idées? Et donc c'était ça, c'était un peu d'essayer de témoigner de cette rencontre quand on joue tous les quatre en même temps.
Du coup, parce que la genèse du groupe, vous dites, c'est en faisant chacun votre truc de votre côté, à un moment donné, vous êtes mis à jouer ensemble. Je veux dire, est-ce qu'il y a une notion de groupe de potes, ou c'est vraiment des pures rencontres professionnelles à un moment donné
Uniquement professionnelles.
Dès que ça devient un peu trop amical,
on arrête.
Chacun rentre chez soi.
Non, en fait, comme disait Nico tout à l'heure, c'est que au départ, moi, Théodora, la bassiste, je l'ai rencontrée parce que j'ai réalisé son premier album. Donc on a commencé en fait à travailler ensemble sur sa musique à elle il y a quelques années maintenant. Et puis avec Nico, on s'est rencontrés parce que avec Théodora, du coup, ils m'ont accompagné sur la dernière tournée que j'ai fait en solo sous le nom Sage. Et en fait, c'était une tournée, donc, comme tu disais, quoi, on avait pas mal retravaillé les chansons et on s'est aperçu qu'on trouvait un peu un son à nous trois. À l'époque, on n'était que trois, qui était vraiment chouette, quoi. Et en même temps, la tournée s'est assez vite terminée, donc on était très frustrés de ne pas aller plus loin là-dedans. On se disait, on aurait aimé avoir 100 dates de concert pour pouvoir aller plus loin, exactement. Ouais. Et du coup, on s'est dit, on devrait faire un groupe comme ça, on ne se posera pas la question de savoir s'il y a des concerts et on fait un truc ensemble. Et assez rapidement, Théodora, qui connaissait Zoé parce qu'elles avaient beaucoup joué ensemble, en fait, assez vite, on s'est aperçu déjà qu'à trois, on savait pas trop si le son était complet, quoi. On s'est dit, c'était très très planant, sans batterie, et y avait déjà un peu le son, mais sans la batterie. Et ça nous plaisait un peu, il y avait un truc vraiment très planant, quoi, méditatif, un peu psychédélique. Et il y avait déjà ce côté un peu soft grunge, mais peut-être un peu trop soft. Et puis Zoé nous a rejoint très vite, en fait. Et on a vraiment senti à ce moment-là que le cercle était complet, quoi. Ouais. Et puis en fait, on s'est pas tellement posé plus de questions. Enfin, ça s'est très vite fait assez naturellement.
Surtout que Zoé, elle est arrivée. Et ça a été instantanément trop cool.
Ah ouais.
C'est-à-dire qu'il y a un moment où, déjà, nous, on n'était qu'à trois instruments sans batterie. On ne jouait pas très fort. Enfin, et puis, on était habitués à travailler comme ça. Mais alors, Zoé est arrivée. On s'est dit, bon, la batterie, c'est sûr, on va devoir jouer fort et tout. Et Zoé joue très doucement, ce qui est très difficile à la batterie. Et elle joue extrêmement doucement. Et du coup, c'était génial. Enfin...
C'est vrai que c'était une peur.
Instantané. Ouais.
C'était une peur que moi j'avais pas mal.
Ça change un peu trop le mood.
Bah
du coup,
ouais, que ça change, ouais. ou que ça nous pousse. Et moi je me disais si je dois chanter plus fort, ça va changer le.
Ça sera plus du soft grunge, ça sera du grunge tout court.
Ça sera du grunge tout court. Ou, j'avais peur qu'on perde un peu ce truc. Et en fait, c'est vrai que Zoé, c'est celle qui joue le plus doucement de nous quatre, quoi. C'est assez impressionnant. Et donc ça s'est parfaitement mêlé en fait au son qu'on commençait à trouver.
J'ai même lu Zoé dire dans une interview qu'elle a donnée à Tsugi, enfin que vous avez donné ensemble à Tsugi, que l'idée c'était que vous puissiez presque chanter, entendre les voix sans avoir besoin d'être sonorisé, quoi. Ouais. C'est que on reste entre nous et déjà il y a une forme d'équilibre.
C'est à peu près le cas.
C'est complètement ça. Ouais.
En live peut-être un petit peu moins maintenant, mais en vrai oui, quand on travaille tous les quatre. Alors dans la même pièce.
C'est ça qui m'amène la question, c'est que du coup donc vous jouez dans les conditions du live, donc déjà c'est super cool parce que vous vous dites bah c'est facile à mettre en place sur scène et à défendre devant un public, mais du coup ouais, il y a pas cette peur aussi de parce que devant un public t'as une énergie qui est différente et t'es moins dans le côté planant, relax, t'es obligé de...
C'est un peu différent, c'est sûr que surtout à l'étape, on va dire, où les gens découvrent la musique, parce que ça existe, hein, des gens qui font une musique ultra planante et qui ont un public qui est assis et qui tripe pendant des heures sur un truc ultra doux et tout, mais quand on joue dans des festivals, par exemple, au milieu d'autres groupes et que on peut pas tellement imposer non plus à des gens qui vont découvrir de...
Asseyez-vous maintenant.
Ouais, asseyez-vous.
Ouais, c'est compliqué.
donc il y a une réinterprétation, mais on essaye de pas complètement perdre non plus ce caractère-là. Et puis, je pense que les concerts permettent d'aller toujours un peu plus loin dans les intentions, un peu dans les extrêmes, quoi. Que ça soit extrêmement doux ou extrêmement fort, c'est ça qui est intéressant, je pense aussi.
Et honnêtement, c'est aussi assez agréable en concert de pouvoir être un petit peu plus
dans l'énergie
que sur le disque. On cherche pas ça justement forcément, mais en live, il y a des moments où c'est génial de pouvoir
crier,
se lâcher.
Il y a la peur d'être chiant quand même qui peut être là.
C'est même pas une histoire de peur.
J'écoute que de la musique douce chez moi, donc j'ai pas peur d'être chiant.
Moi non plus. Alors honnêtement. Et en fait, en vrai, c'est même pas une question de ça. C'est une question de moment. Il y a un moment où quand même il y a des morceaux sur l'album qui sont un peu plus
velus,
up tempo. Et en fait, ces morceaux-là, naturellement, en live, on a tendance un peu... on se retient, puisque en écoutant après, on se dit, ouais, quand même, c'était un peu...
un peu la guerre. Fou, quoi, ouais, un peu.
C'était
fou,
un peu la guerre. Attention. Mais, mais quand même, on sait que ça fait partie du truc aussi. Je veux dire, dans un moment de communion avec un public qui est embarqué dans le truc, moi, je me place comme spectateur de concerts. J'adore aller à des concerts. C'est vrai que quand il se passe des trucs un peu
c'est un spectacle aussi.
Ouais, c'est génial. Et du coup, on va pas se freiner juste par pureté,
rigueur,
exactement.
Esthétique.
Je trouvais que tu jouais un peu trop fort là. Ça doit...
Je me permets de baisser le son de ton ampli.
C'est horrible.
Ça serait vraiment ça l'ambiance.
Tiens, je prends tes baguettes, prends ces balais.
Ouais, oui. Tu vas jouer avec des maillotches maintenant. Non, et du coup, en fait, ça fait partie du truc aussi. Et je pense que quand on s'enregistre. Déjà, en fait, c'est bête, mais on joue assis en studio.
Ouais.
Et je pense que ça fait partie un peu du son aussi. Ça se voit pas, mais ça fait partie du son.
Y compris pour chanter.
C'est assez agréable de chanter assis, en fait.
Ouais.
C'est très différent.
Parce que parfois, on dit que, d'un point de vue performance, entre guillemets, vocale, performance au sens large, hein, c'est pas forcément l'idéal d'être assis, mais c'est un préconçu que j'ai fait un truc.
La performance vocale. Pavarotti chanterait assis, ça serait compliqué, mais.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que c'est vrai que pour du chant lyrique, par exemple, ça a fait une vraie différence. Mais je sais pas moi, Clara Luciani que j'enregistre tout le temps, elle chante tout le temps assis et elle déteste chanter debout en studio, okay. Par exemple, donc c'est vraiment une histoire de confort, de vibration, de comment est-ce qu'on sent. Parfois debout on peut avoir tendance à en faire trop, ou à... ça dépend un peu,
c'est-à-dire que ceux plus qui plus de puissance aussi, enfin t'as quand même
il y a un truc où t'es plus installé, donc c'est parfois t'as plus de grave en étant assis qu'en étant debout. C'est
tu contrôles peut-être mieux aussi ta proximité,
la distance au micro. Donc c'est plein de petites subtilités. Il y a des morceaux que tu vas avoir envie de chanter debout et d'autres assis. C'est propre à chacun un peu. Moi, quand je fais des disques pour d'autres, je vais avoir tendance en fonction des gens, à leur dire, toi, tu vas plutôt chanter debout. Si c'est déjà.
Tu vois, au premier regard, toi, t'es du genre debout, toi.
Ouais. Prends ce pied de micro.
Naturellement, je pense que des voix très claires, très projetées, qui sont plus des voix de chanteur, entre guillemets, chanteur,
d'un point de vue technique.
D'un point de vue technique.
Ce qu'on n'est pas Ambroise, on peut se le dire.
Ambroise, techniquement, il est incroyable, mais c'est juste que c'est pas ce que tu fais sur dans ce groupe.
Ça me fait plaisir.
Non mais t'as un gros passif quand même.
Là, j'ai fait du chant lyrique.
Du chant lyrique. Donc il y a un moment.
Mais très mal. Hein. J'ai arrêté.
Parce qu'il voulait tout le temps rester assis.
Ça vient de là donc déjà.
Et en fait, effectivement, quand t'as besoin d'être dans une performance vocale technique, je pense qu'être debout ça doit être quasiment être indispensable. Je veux dire, Elliott Smith ou Neil Young, quand il joue comme ça sur sa guitare, tu vas pas lui demander de se mettre debout pour enregistrer le morceau. Il le chante, faut juste placer le micro au bon endroit, parce que en fait, c'est là que ça se passe et c'est là qu'il se crée quelque chose. Donc, mais c'est autre chose, c'est pas de
la performance au sens sportif du terme, quoi.
Exactement. C'est une performance vocale parce qu'il se passe quelque chose et qu'il y a tout dedans dans cette voix. Il y a une intention, il y a une intimité, il y a tout ce qu'on veut y mettre. Mais en tout cas dans ces voix-là, on veut pas y mettre une performance technique. Une performance sportive.
Ouais. Oui, démonstrative, que ce soit pas démonstratif, etc.
Ouais.
Voilà.
Je comprends. Et du coup, je continue avec mes questions.
Ouais, j'avais suggéré qu'on écoute un autre morceau. Tu veux quand même poser la question avant?
Non, vas-y, on peut. La question, je la retiens.
Ouais, comme ça, tu rebalances dessus. Ouais, allez, ouais, parfait. Parce que.
Alors, il est brimé, hein.
À chaque fois. Moi, j'ai compté.
C'est la cinquième fois, mais ça va.
Non, cinq fois, à ce point.
Je suis embêté pour choisir le morceau parce que, tu sais, comme d'usage, Daz, je like, tu sais, ceux que j'aime bien. Je me dis, on pourrait les écouter dans l'émission. Le problème, c'est que j'ai liké quasiment tout l'album.
Bah ouais.
Donc, je sais pas ce qu'on pourrait s'écouter. Peut-être que je peux vous demander à vous si vous avez envie d'écouter certains morceaux.
Sinon, on se réfère au nombre de streams.
Ah, c'est faisable aussi.
Ah, celle-là.
Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est
justement, peut-être.
Celle où Nico chante, par exemple.
Easy, ouais, on peut faire ça. Hein.
Bonne idée. À fond.
Il veut pas imposer sa chanson, mais allez, on s'écoute Easy.
Ça passe vachement bien, on se rend pas compte qu'il n'y a pas de clavier. Tu
vois. Moi, ce morceau, je trouve qu'il est. Et tout l'album, on pourrait le rapprocher de certains trucs. Moi, je pense que c'est du Dinosaur Junior direct. Je sais pas si c'est un truc que vous aviez un peu en tête. Parce qu'ils ont des approches aussi plus acoustiques chez Dinosaur Junior. Notamment Jay Macy en solo fait des trucs beaucoup plus acoustiques. Et moi, je trouve qu'il y a un truc, même dans ta voix un peu plus traînant peut-être que celle d'Ambroise, il y a un truc un peu.
Moi, clairement, en termes de performance vocale, on est sur le stade en dessous. Mais c'est différent. Je pense que c'est plus une fragilité aussi. Moi, clairement, ça, c'est des références pour moi. Et je disais Elliott Smith tout à l'heure aussi. Mais Dinosaur Junior, Mrs.
C'est le fait aussi qu'il y ait une guitare un peu fuzzy là, dans le morceau, un peu mise en avant, etc. Ça, qui peut faire aussi le côté Dinosaur Junior.
Ouais. Et c'est super. En fait, ce qui est génial, c'est de faire un truc aussi basique. Parce qu'au départ, vous l'avez entendu, c'est vraiment une guitare, c'est un petit picking de rien du tout. Et sauf qu'en fait, avec l'ensemble, là, ça fait un vrai morceau. Je trouve qu'il manque rien. Et la guitare d'Ambroise, c'est génial parce que ça donne d'un coup une couleur. C'est pas juste un morceau folk, quoi. Il se passe vraiment un truc, et puis ça se libère un peu dans le refrain. Avec les chœurs, on entend bien Zoé et Théodora. C'est vraiment, je sais pas, c'est.
T'es content de ce morceau?
J'en suis très content, ouais.
Non, et puis c'est vrai que c'est le seul morceau de l'album que je chante pas. Et ça nous a un peu donné, l'envie pour la suite qu'il y ait plus de morceaux, que tu chantes toi, mais aussi dans le prochain qu'on est en train de faire, Zoé, elle chante deux morceaux, Théo en chante un, voire peut-être deux. Donc en fait, c'était aussi l'idée d'ouvrir un peu ce poste-là de lead chanteur à tout le monde, pour aller un peu au bout de l'idée de groupe aussi. Donc c'est vrai que ce morceau, il a ouvert cette possibilité-là. Et quand tu nous l'as envoyé, c'était assez évident en fait. On s'est tout de suite vachement approprié cet arpège de guitare, cette mélodie et ce texte. Donc ça s'est fait vraiment de manière très fluide.
Dans cette question tout à l'heure.
Ouais, justement en fait, ça tombe bien qu'on en parle parce que le côté donc la fluidité, c'est-à-dire vraiment le côté tout se fait un peu naturellement, c'est-à-dire qu'il y a il n'y a pas forcément de calcul, vous travaillez au feeling, au kiff. À quel moment on rentre dans une recherche d'esthétique, de signature qui identifie clairement le groupe? Parce que là, si tu dis que tu es le lead singer sur le premier album et que après, en fait, tout le monde chante, que finalement chacun propose ses idées et on peut commencer des chansons avec les idées d'un peu tout le monde, c'est-à-dire vraiment que c'est un truc très collégial. Comment vous défendez le groupe, du coup? Donc là, vous êtes tous les deux avec nous. On comprend en fait que tout le monde vraiment est, enfin, c'est très horizontal comme comme ouais. comme groupe, comme comme organisation. Et je sais pas si c'est quelque chose qu'on retrouve dans le milieu musical généralement, ou c'est plutôt il y a toujours quelqu'un qui est un peu lead sur le truc, qui tire le reste.
J'ai l'impression que ta question est aussi l'idée de comment on trouve une identité ouais. commune et qu'on préserve aussi, si exactement. Chacun y met un peu trop sa patte, comment on s'en sort.
Ouais, comment est-ce, ouais. est-ce que c'est déjà un questionnement que vous avez de se dire, si on se disperse trop, peut-être qu'on sera moins identifiable, tu vois, comment...
Je pense qu'on a quand même une quête derrière ça esthétique assez exigeante, c'est-à-dire qu'on ne fait pas non plus que ce qui nous passe par la tête au premier geste, c'est-à-dire qu'on est quand même assez critique envers ce qu'on fait, mais par contre, c'est sûr qu'on a très à cœur que tout le monde trouve sa place quand on fait un morceau et quand on enregistre le disque.
Mais ça veut dire qu'au sein du groupe, il y a personne qui se dit « Ah non, non, moi je chante pas ». C'est-à-dire que tout le monde dit « Ok ».
Ça pourrait, non, mais ça pourrait clairement être le cas. En fait, c'est plus que tout le monde est capable de chanter et qu'on s'aperçoit qu'en fait, ça fait que enrichir le spectre et sans pour autant le disperser tant que ça. Mmh. On se dit pas ah ouais, c'est quatre groupes en un, ou ouais. on a plus l'impression que ça vient enrichir et en même temps préciser un peu notre son ou notre style, et du coup c'est on voit plus ça comme un enrichissement que comme une dispersion. Mmh. Et du coup, mais personne n'est obligé de chanter. C'est-à-dire que là, on est dans cette dynamique-là. Et encore une fois, je pense qu'on essaie d'être le plus en phase possible avec ce qu'on a envie de faire au moment où on le fait et le sens que ça a pour nous. Et du coup, moi, je déteste l'idée des recettes, par exemple. Enfin, un truc où, genre, on a trouvé un truc et on va le reproduire. Mmh. Et j'adore l'idée d'une réinvention perpétuelle. Et le disque, ce qui est marrant, c'est qu'il a beau être sorti il y a quelques mois seulement, là, de le réécouter et un peu en perspective avec ce qu'on vient de faire, parce qu'on vient de commencer à enregistrer la suite, je sens déjà qu'il est ancré dans une certaine époque de l'histoire de ce groupe, la jeune histoire de ce groupe, et que du coup, on est déjà dans autre chose, même si c'est une continuité. Et donc, je crois que c'est hyper important d'être toujours honnête avec son envie et ses idées du moment.
Et puis, pardon.
Non, je t'en prie, Nico, vas-y, Régis.
En fait, j'ai aussi l'impression que quand Zoé apporte un morceau, ou Théo, ou moi, en fait, on arrive avec un truc de guitare et une mélodie. Et du coup, en fait, il n'y a pas de... j'ai l'impression que ce groupe, il a un son... parce que c'est un groupe et parce qu'on joue tous les quatre ensemble. Mmh. Et du coup, les morceaux, c'est pas « toi, tu vas jouer ça, toi, tu vas jouer ça ». C'est « moi, j'ai cette idée. Est-ce que ça vous plaît? Qu'est-ce que vous en pensez? Qui pourrait jouer quoi là-dessus ?» Et souvent, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on aurait pu avoir en tête au départ.
Mais ça participe
et
quand
pourtant,
même dans
un truc... En fait, ça distingue vraiment la composition de l'arrangement aussi. Mmh. C'est qu'il y a un moment, il y a trouvé... une grille et une mélodie, ce qui fait vraiment le squelette du morceau. Et puis en fait, ce qui fait que ça va devenir un morceau de ce groupe, c'est parce qu'on va jouer tous les quatre ensemble et que chacun aura trouvé sa place au sein de ce morceau pour qu'il manque rien à la fin, et que ça crée ce truc
que la réunion de nous quatre,
ouais,
et pas
exactement.
Autre chose.
Mais c'est trop bien, parce que du coup, dans un monde justement où la musique est industrielle, où tu sais, il y a 150 personnes qui participent à un morceau, il y a les top liners, les machins, les trucs et tout, en fait, revenir à ce genre de démarche-là, et faire un truc aussi naturel où le tout n'est pas que la somme des parties, c'est-à-dire que ça crée un truc en plus qui n'était pas forcément là si on prend chaque personne individuellement, je trouve ça trop cool en vrai. Ça,
bien sûr.
Comme approche, en fait. Je pensais même pas que ça se faisait encore. Non, mais vraiment, tu vois, parce que... Après, moi, je connais pas ce milieu-là.
Non, mais c'est vrai que le concept de groupe, c'est un truc qui se fait très peu aujourd'hui. J'ai l'impression que ça commence à revenir parce que parce qu'on a un peu fait le tour, j'ai l'impression du truc tout seul avec son ordi et qu'on a besoin de ça. Donc ça s'inscrit peut-être dans un moment, quoi. Mais c'est comme ça que la musique qu'on aime, elle est venue, quoi. C'est des amis qui se retrouvent à jouer ensemble et qui ont ensemble un son qui serait incapable de faire individuellement sans les autres. Et du coup, ça demande beaucoup de lâcher prise, en fait, pour tout le monde. C'est-à-dire, quand on arrive avec une nouvelle chanson, effectivement, de ne pas trop se projeter en amont sur comment on voudrait qu'elle sonne, parce qu'on ne sait pas ce que chacun va apporter. Et souvent, c'est des bonnes surprises. C'est-à-dire, ah, c'est marrant que tu penses à faire cette guitare-là, parce que j'aurais pas du tout vu ça. Mmh. Et en même temps, je trouve ça trop cool.
Au début, je trouvais ça moche, et puis je me suis dit,
on s'est habitué,
et puis j'ai fermé, je pense à autre chose à chaque fois, et ça passe tout seul.
mais du coup, en termes de. Pardon, je trouve que c'était des questions sur.
Ah, c'est son moment.
Là, j'y vais. Par rapport au public qui vous écoute, du coup, j'imagine qu'il vient aussi en partie des différents publics que chacun pouvait avoir sur ces expériences précédentes. Est-ce que vous avez remarqué ça, que c'est des gens qui parfois te suivaient toi avant, par exemple, ou toi, ou encore Théodora ou Zoé?
Clairement.
Ouais, c'est, et du coup ils sont surpris, ou parce que tu disais que c'était
ils se mettent à un endroit dans la pièce, ils regardent une personne.
Non, parce Team que Théodora par là-bas.
Par exemple, tu disais que c'est Théodora qui faisait un son un peu plus électro.
Ouais.
Du coup, les gens qui la suivent et qui se disent tiens, elle est dans un groupe, ah, je vais écouter.
Je pense que déjà, Théo, elle a commencé par faire un groupe de rock avant de faire son projet solo.
D'accord.
Et elle a même eu plusieurs groupes. Et donc, je pense que les gens qui la suivent depuis très longtemps retrouvent quelque part quelque chose qu'ils reconnaissent chez elle. Ensuite, je pense que les gens sont pas monomaniaques et se disent pas je vais écouter que ce style de musique là. Et voilà,
donnez-moi
et...
les stems, j'enlève tous les autres.
Voilà. Je fais mon propre mix.
Non, mais c'est vrai que quand on parle de groupe, en tout cas moi sur la musique que je connais vraiment, c'est le hip-hop, et il y avait cette histoire, tu vois, avec des grandes formations type le Wu-Tang ou des groupes comme ça, où en fait chacun, c'est comme les Avengers, tu vois, chacun a son truc, sa patte, et en fait quand ils sont ensemble, bah tu retrouves quand même la patte individuelle de chaque membre du groupe, et tu sens que ah bah là c'est le moment où Method Man il fait du Method Man, tu vois, et puis là c'est le moment où ODB il fait du ODB, et la question de chacun a une identité propre, et quand ils sont ensemble ça donne un autre truc qui est pas forcément de rapport, ou en tout cas qui est une évolution, une prolongation du truc. Moi j'essaie de justement de diguer, tu vois, dans mon catalogue là, pour me dire est-ce que j'ai déjà croisé un truc comme ça, et pas trop en fait, tu vois.
Ouais.
Donc la question effectivement de se dire, on a un public qui est un peu composite et qui certains viennent pour Astral Bakers, et puis d'autres viennent parce qu'ils nous ont vus, ils nous connaissent d'ailleurs. Comment est-ce qu'on s'assure que
typiquement, plus j'imagine que toi Ambroise, quand même avec un de tes précédents groupes Revolver, vous avez connu une certaine exposition médiatique,
en
etc.
Plus, ouais.
Ça t'a créé un public qui est amené peut-être à découvrir Astral Bakers. Enfin, il y a forcément aussi ce réseau-là qui s'active, j'imagine.
Ouais, il y a des ponts pour chacun. Zoé, elle a beaucoup joué, elle est en concert en ce moment avec Pomme par exemple, donc il y a aussi des gens qui la suivent via Pomme qui viennent. Nico, il était avec November Ultra en tournée, donc ça amène aussi d'autres gens. En fait, je pense que même si on a des projets qui sont, enfin, par exemple, j'ai l'impression qu'entre Revolver, mes albums solo Sage et la musique que j'ai fait pour les autres et Astral Bakers, il y a quand même une continuité quelque part, ou en tout cas une recherche, quoi, des points communs. Et donc quelque part, je pense que les gens peuvent avoir une sensibilité plus pour un type de son qu'un autre, mais en fait ils peuvent retrouver aussi ce qui leur a plu à un moment dans tel projet, et je pense que les gens sont assez curieux et assez ouverts, et effectivement il y en a peut-être qui vont pas accrocher, mais j'ai l'impression que on est aussi en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'on est un jeune groupe, parce que ça fait pas très longtemps que le groupe existe et que l'album il est très récent, mais on a chacun eu vachement plus d'expérience avant que les groupes qui se forment à 20 ans. Et donc c'est ça qui est assez beau aussi, c'est que c'est comme une sorte de renaissance un peu pour chacun, et avec un historique, et en même temps on a vraiment une vraie fraîcheur par rapport à cette histoire-là, une vraie envie, et, mais avec peut-être plus de recul et plus de, je sais pas, on essaie de pas tomber dans les pièges de, bah, des groupes.
Ça, on pourra en parler dans la deuxième partie, ouais. On va d'ailleurs bientôt y passer, mais j'aimerais juste réagir à un truc que t'as dit, Ambroise, je peux avoir ton avis, Nico, puis Ambroise, tu peux aussi réagir à ça, parce que c'est peut-être un peu provocateur, mais à un moment, tu as dit... Il y a aussi le désir de renouvellement, etc. Je veux pas un truc figé et tout. Tu veux parler de quelque chose comme ça. Mm-hmm. Tu disais par rapport notamment à ce que vous venez d'enregistrer, prévu pour un second album, enfin pour un deuxième album, par rapport à en écoutant les voilà le premier, mm-hmm. etc. Moi, ce que ça m'évoque tout de suite comme ça, c'est de me dire, vous êtes quand même dans une musique dont les codes folk rock sont un peu patrimoniaux, ont quand même été figés à un moment, inscrits dans une époque, etc. Est-ce qu'il peut pas y avoir une forme de paradoxe? À se dire comment je peux ou en tout cas une difficulté à trouver une forme de renouvellement en utilisant cette esthétique, ces codes-là, ces grands marqueurs qui sont pas forcément associés à l'innovation entre guillemets d'une certaine manière. C'est pas forcément une nécessité d'ailleurs, mais quel est votre regard vis-à-vis de tout ça?
Franchement, pour moi, c'est comme demander à un peintre pourquoi est-ce qu'il peint pas avec un iPad, quoi. C'est-à-dire que en fait, un instrument de musique, c'est quelque chose d'ancestral, c'est vrai. Mais rien n'empêche quelqu'un de faire une musique complètement révolutionnaire avec un piano. Et en fait, on a des outils qui sont ancrés, on a des références qui sont des références qui vont de il y a quelques mois, quelques semaines pour les derniers groupes qu'on aime et qu'on pourrait citer, à aux années 60 et peut-être même encore plus avant pour certaines harmonies même de compositeurs classiques, mais en fait je crois que ça n'empêche pas la modernité ou le renouvellement. C'est vraiment une question pour le coup de goût et de choix, j'ai envie de dire d'outils, et qu'est-ce qui nous fait vibrer, quoi. Est-ce que c'est de faire une peinture avec un pinceau ou un écran, et en musique c'est un ordi ou un bout de bois, une guitare, une batterie, et donc on se dit pas qu'on fait une musique
passéiste,
non, pas du tout. C'est juste qu'elle est peut-être plus référencée, mais c'est la référence, c'est plus du fait qu'on a de l'expérience, parce que en fait avec Revolver on faisait une musique qui était aussi assez référencée, mais on avait juste moins de culture que maintenant.
On rapprochait beaucoup d'une pop légèrement sophistiquée à la Beatles et compagnie, c'est un truc, ouais, qu'on faisait beaucoup autour de Revolver.
Et aujourd'hui on a chacun écouté beaucoup de musique, on a beaucoup de choses, mais au moment d'écrire une chanson, c'est pas ça qui est important, en fait. C'est quel est le moment, enfin, qu'est-ce qu'on a envie de raconter. C'est des choses beaucoup plus simples, en fait. Écrire une chanson, c'est un moment où il faut faire abstraction totalement de ses connaissances et presque de son cerveau, et revenir à un truc beaucoup plus instinctif et animal, en fait. Et du coup, je ne sais plus quelle était la question, mais j'ai l'impression que...
Je peux la reposer éventuellement à Nico. Cette idée, tu sais, j'affirme rien, mais juste je mets sur la table cette idée, est-ce qu'il peut y avoir une forme de paradoxe à être dans une musique qui a un patrimoine très établi, très référencé, etc., et une volonté de renouvellement et d'innovation? Est-ce qu'on peut arriver à mêler les deux à...
Moi, je suis persuadé que oui, parce que, en fait, effectivement, les références auxquelles on pourrait penser... Nous, c'est des choses qu'on échange depuis longtemps. On a des playlists de trucs qu'on se fait écouter en se disant « Tiens, écoute ça, c'est incroyable. » Et en fait, ça peut être de n'importe quand. Ça peut être des trucs des années 70, parce qu'évidemment... En fait, les années 70, il y a un truc, au-delà même de la composition, il y avait un son qui était incroyable souvent. Enfin, il y a quelques disques qui sont quand même fabuleux de cette époque. Pour des questions techniques, quoi, c'est ouf.
Est-ce que tu as des éléments qui peuvent te marquer? Est-ce que c'est une question de dynamique, justement, parce qu'on compressait moins à l'époque? Est-ce que
c'est un âge d'or, en fait. C'est un âge d'or à la fois de composants électroniques, ouais, d'instruments de musique. C'est vraiment comme un âge d'or en art, quoi, que ce soit la Renaissance, c'est ou je sais pas quoi. C'est vraiment un alignement entre à la fois une génération souvent post-Seconde Guerre mondiale, donc qui a grandi dans un certain contexte, tous les gens qui avaient 25-30 ans dans les années 70, qui avaient accès pour la première fois, on va dire, à une forme de technologie un peu élaborée, mais qui était extrêmement manufacturée, quoi, faite à la main avec des composants qui aujourd'hui n'existent plus ou valent une fortune, et un process qui a fait que à ce moment-là il y a eu un truc mais dans tous les styles de musique, hein,
un son
un peu inégalable. Et c'est vrai que par exemple des disques de Pink Floyd des milliers d'années 70,
Fleetwood Mac, c'est
en fait c'est inégalable parce que soit les composants n'existent plus, soit les musiciens ont changé, c'est plus les mêmes personnes, et en fait c'est vraiment un âge d'or. Maintenant, ça veut pas dire que c'est moins bien maintenant ou quoi.
Et ça peut être une quête de,
Les années 90, ça a été ouf aussi. Enfin, il y a eu les premiers effets numériques. Aujourd'hui, on est friand d'effets numériques qu'on a clairement fui avec l'avancée de la technologie. Je veux dire, quand t'avais un PC en 92, en 94, ton PC de 92, c'était vraiment une ruine, hein, et tu voulais t'en débarrasser à tout prix. Mais en fait, la réverb numérique, les premières réverbes numériques bien dégueulasses, aujourd'hui, ça, en fait, on les recherche parce que ça donne un son d'une époque aussi. Ouais. Et tu peux pas le faire autrement. Enfin, tu peux pas le faire autrement. Tu peux toujours après. Sauf qu'en fait, on en revient toujours à notre histoire d'enregistrer live et tout. C'est qu'il y a un moment. Aujourd'hui, c'est vrai que les moyens techniques nous permettent de tout faire comme on veut, dans n'importe quel ordre et n'importe comment. Sauf qu'en fait, c'est à quel moment tu décides de te mettre au boulot dans l'histoire. C'est est-ce que tu composes à mort avant et que t'enregistres une bonne fois pour toutes et c'est plié, ou est-ce que tu fais petit bout par petit bout, et ce qui peut être super aussi, parce que ça peut t'amener autre part. Mais est-ce que en faisant comme ça, tu te laisses aussi la possibilité de tout refaire en permanence, et du coup de changer le son de la caisse claire, de mettre une réverb différente, tout ça. En fait, l'utilisation des vieilles machines de technologie d'une certaine époque, il y a un moment, l'avantage c'est un préamp sur un micro, tu prends un truc des années 70, en général, tu t'ouvres le gain, tu fais un gain, tu chantes dedans.
C'est plug and play, ça super. Fonctionne. C'est...
Et en fait, tu pourras pas faire grand chose d'autre avec, mais ce que tu fais bien avec, bah, c'est bien. Et du coup, bah, c'est un peu ce truc-là qui est intéressant.
Et moi aussi, un truc que je voulais dire.
J'y tiens.
Qui me tient. Non, mais ça me faisait penser à ça dans ta question de par rapport à, entre guillemets, faire de la nouveauté avec un peu des vieilles recettes, ou je sais pas si ça résume bien la question, mais
un peu caricatural. Mais
en fait, c'est juste que je remarque que les générations, elles se renouvellent aussi, et je sais que quand j'ai commencé, on redécouvrait un peu les Beatles qu'on avait un peu oublié dans les années 90. Ça revenait. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, par exemple, que Nirvana, qui pour moi était un groupe actuel, en tout cas, c'était le groupe que mon grand frère adorait. C'était vraiment le groupe de mon époque, ou presque. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est vraiment hyper vintage, et qu'en fait, les gens redécouvrent Nirvana comme si c'était un truc qu'on avait oublié. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant dans le fait de regarder parfois vers le passé, c'est ce truc de retour de mode d'une époque, et la façon dont on va la réinterpréter et la réinventer. Ou pas, mais en tout cas, par rapport au son des années 90, par exemple, donc Nirvana, Oasis, Elliott Smith,
Blur,
Les Innocents. En fait, il y a un truc où c'était devenu interdit de chercher à se faire ce son-là pendant 20 ans, parce qu'on avait envie de se construire en opposition.
Et parce qu'on en avait beaucoup soupé un moment, c'était devenu une industrie extrêmement importante.
Ouais, mais en fait, on a toujours envie de tuer la génération précédente, parce que moi, quand j'étais ado, les années 80, mais on pouffait en regardant des trucs de
Desireless.
Ou de... comment ça s'appelle, de Dépêche Mode, ouais. Tu vois des vieux lives de Dépêche Mode, on se disait, oh, t'as vu la coiffure et tout.
C'est bien, en vrai, Dépêche Mode.
Ouais, et que, alors que 5 ans ou 10 ans après, c'était le truc le plus cool du monde qui avait jamais existé. Tout le monde voulait faire un son de synthé années 80. Mmh. Et donc, en fait, c'est des cycles de. On se lasse de quelque chose, on a envie de faire autre chose, et puis.
Ça redevient cool.
Voilà.
Ça,
et j'ai l'impression qu'un jour, on va revenir au DVD, par exemple, tu vois. C'est-à-dire que. Non, mais je me suis dit ça, ou
VHS, le... carrément.
En tout cas, les effets VHS et tout que tu fous en numérique, ouais, bah, etc., ouais. Tout le monde le fait.
On n'aurait jamais imaginé que ça redevienne, puisqu'on a changé de technologie pour améliorer le truc.
On cherche à dégrader
en fait,
à nouveau.
Au moment où tu changes de technologie, tu te dis jamais, tu te dis bon débarras. Ouais. Tu te dis jamais, ça je le garde précieusement parce que plus tard ce sera vraiment incroyable. Alors que t'as foncé dans le numérique.
Enfin, et combien de gens, de parents autour de nous ont vendu l'intégralité de leur collection de vinyle pour tout racheter en CD. Ouais. Enfin, t'sais, c'est genre.
Ah oui, parce que pour eux, ça avait pas
c'était un
plus
progrès,
de valeur
quoi.
Que
non,
ça. C'était
ça.
Juste, tiens, le CD c'est plus pratique, let's go, tu vois.
Exactement. Ouais. Et je pense que maintenant on a un peu plus conscience, on n'irait pas. Jeter tous ces bouquins pour avoir juste une tablette liseuse, quoi. Mais il y avait un peu une démarche de cet ordre-là. Et donc, je trouve ça toujours hyper intéressant de redécouvrir, en fait, du coup, c'est comme si à chaque fois, la mémoire humaine, elle était un peu renouvelée en permanence. Mmh. Et quelque part, si on fait une mélodie qui a déjà existé au 19e siècle, en fait, elle sera tellement différemment interprétée ou tellement...
Même reçue par le public.
Exactement. Voilà. Qu'en fait, ça sera jamais pareil. Mmh. Et c'est ça que je trouve plutôt enthousiasmant, quoi. C'est qu'il n'y a pas à avoir peur d'arriver aux limites, je crois, de la création.
Non, mais il y a une question quand même de se dire, est-ce que... en fait, comment est-ce que tu commandes le cool, tu vois? À quel moment, en fait, le truc que tu as fait qui a toujours été cool... Ça devient un peu has-been, tu sais, c'est un peu trop daté, voilà. Un peu trop...
Il y a des gens qui font toujours la même chose et qui sont cool par vague et après qui sont plus cool. Un mec comme Neil Young, par exemple, il a été cool à la fin des années 60, début 70. Il est devenu pas cool du tout dans les années 80.
Il
est
re-cool
revenu
à mort.
Cool début 90 parce que...
Mais avec la vague grunge en partie
avec
aussi.
La vague grunge qui lui vouait un culte. Et puis après il est passé au stade quand tu vis deux fois le cool, en général tu passes au stade de mythe et tu restes cool.
C'est une théorie que je garde, ça me paraît assez vrai, je garde comme ça. Deux fois cool, c'est bon.
Ce que je vous propose, c'est qu'on passe justement, on a pas mal parlé de votre musique et qu'on, dans cette continuité, qu'on parle un peu de votre métier et comment vous le vivez, ce métier. Peut-être en transition, on peut quand même s'écouter un morceau.
Allez,
encore,
allez.
Parce qu'on en a écouté que deux pour le moment. Vous avez une envie particulière d'un morceau sur l'album, que là, c'est comme ça, lequel?
J'écouterais bien, Only Lonely, tiens. Ça,
et bah,
on
tu
le
sais
pas
quoi
souvent.
Et bah, je suis d'accord parce qu'il y a deux morceaux qui ont beaucoup moins de stream et que j'aime beaucoup, qui sont Something New et Only
bien,
Lonely.
Et ils sont plus tard dans le disque, hein, c'est aussi bête que ça.
Ouais. Puis Only Lonely est beaucoup plus vocal, si j'ai pas de bêtises, je confonds. C'est pas,
Elle est très douce, mais pour moi elle est assez forte, mais j'ai envie de dire. En fait,
c'est la 9 normalement, la 9 dans les albums, c'est toujours.
Ah ouais, la 9 c'est.
La 9 ou la 10
T'as une théorie, la 9 ou la 10, c'est ça, mais très bien.
Non, mais c'est vrai que ce soir, c'est des trucs pas mal.
Bon, allez, Only Lonely alors.
Never show what's inside, who you
Bon, de toute façon, quelle que soit la track qu'on lance sur votre album, ce sera bien, parce que l'album, il est bien. Mais, et puis, il y a toujours cette volonté aussi, d'as, tu dois l'entendre, là, d'un minimum de richesse harmonique. Enfin, il y a vraiment ce truc, c'est, on va pas être dans le syndrome de la boucle répétée du bout de bout à, enfin, tu vois, jusqu'à la fin du morceau, etc. Ça vient aussi de la façon dont vous avez travaillé, on l'a bien compris. Et ça, c'est assez appréciable, effectivement, cette idée de, ok. Je me laisse porter, mais je peux aussi me faire surprendre un moment, puis on revient, puis etc. C'est assez important aussi de ce voyage comme ça.
Clairement.
C'est un truc que vous avez plutôt bien réussi.
Merci.
Bon, l'argent maintenant.
Le
métier, c'est pour cette partie. Ma première question qui serait vraiment liée à l'un des derniers trucs dont on a parlé, c'est sur ce son un peu, ces sonorités plus folk, acoustique, rock aussi, hein, mais est-ce que quand on fait un album comme celui-là, aujourd'hui, on se dit, c'est une proposition esthétique que je vais facilement défendre, je vais facilement trouver un tourneur, facilement trouver un label, on va le financer facilement et je vais faire des streams. Ou est-ce qu'on se dit, bon, j'ai conscience que c'est pas forcément le truc le plus porteur aujourd'hui?
Je crois que il y a vraiment pas de règle. C'est-à-dire que on peut faire des choses en ayant les ambitions les plus modestes et parfois c'est ça qui va, on sait pas pourquoi, rencontrer un public ou en tout cas intéresser des gens. Et donc je crois vraiment que la seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est sincère, est-ce que c'est quelque chose qu'on aime, est-ce qu'on croit en ce qu'on fait, quoi. Ouais. Et en fait après la question de l'ambition ou du modèle économique, c'est
qu'il faut le financer un projet musical.
Il faut le financer et je pense que il faut quand même un peu avoir en tête effectivement l'échelle en tout cas dans laquelle on se situe ou les objectifs et aussi savoir que sur une enveloppe globale, il y a l'argent qui sert à faire la musique, mais il y a l'argent qui sert à faire l'image, et l'argent qui sert à promouvoir la musique, à avoir des gens qui travaillent le projet. Donc mais ça, j'ai envie de dire, quand on démarre, on n'est pas censé connaître tous ces trucs-là, et c'est pour ça que souvent, le plus utile, c'est d'aller chercher une maison de disque ou un manager ou un éditeur. Mais comme nous, on a cette expérience qui nous a fait un peu vivre un peu toutes ces étapes-là, on savait un peu plus dans quoi on s'aventurait. Mais en fait, on a eu plutôt des très bonnes surprises par rapport au streaming, par exemple, parce qu'on a eu, on a été radar Spotify, donc en fait, on a eu beaucoup de mises en avant sur des playlists. Donc ça, c'est des choses. C'était pas parce qu'on faisait la musique la plus efficace du monde ou la plus, bankable du moment, mais parce que ils ont senti qu'il y avait une vraie, peut-être honnêteté, intégrité, et que du coup ils se sont dit que ça pouvait parler à des gens qui cherchaient précisément ça. Et en fait, on sait jamais trop, je sais pas comment dire, on n'est pas à l'abri d'un bon coup, entre guillemets. Non, mais et que par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est. Quand on fait les choses de manière intéressée ou avec beaucoup d'arrière-pensée en se disant qu'on va le penser comme un produit, qu'on va conceptualiser, qu'on va essayer de le vendre, bah en fait, le gros risque de ça, c'est que ça marche pas et que t'es passé du temps à défendre un truc qui te plaisait pas déjà à toi. Et c'est vraiment un double échec.
De faire des compromis, tu veux dire.
Je pense que c'est un autre métier aussi. Enfin, je veux dire, l'industrie des tubes de l'été, par exemple, c'est clairement un deal entre un label, des musiciens, des compositeurs qui se disent bon, allez, on va faire un truc là.
Oui, là, il y a un coup à faire.
Il y a un brief, et puis ça, on va le pousser à mort. Après, ça marche pas systématiquement, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une autre partie du métier de la musique qui est de faire de la production à des fins de
consommation,
d'explosion totale et de grande consommation. Nous, clairement...
C'est des coups ponctuels, ça s'inscrit pas forcément
sur la durée.
Après, il y a des spécialistes de ça.
Oui, mais
tu veux dire le morceau en lui-même.
Le morceau, et après, même si c'est les mêmes gars, l'année d'après, ils font un autre truc sous une autre identité.
Non, mais c'est vraiment un autre métier. Ça s'apparente plus à la pub. Ouais, voilà.
Non, mais est-ce que vous, par exemple, vous parliez de manager, etc. Est-ce que vous avez pris quelqu'un pour vous représenter ou...
En fait...
Est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, puisque tout le groupe est tellement organique, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi, en faisant rentrer une personne de l'extérieur, bah, de changer la dynamique, de le manager qui voit la batteuse et qui dit « toi, je vais faire de toi une star ».
Ou à l'inverse, de croire uniquement le pouvoir de l'amour et de la bonne musique et se dire « bon, ça sera bien pris, en tous les cas, ça va bien se passer parce qu'on y a mis notre cœur ». Mais ça suffit pas toujours.
Non, c'est vrai.
On a la chance d'avoir une grande équipe qui travaille avec nous sur ce sujet-là. Et une double équipe en plus.
Ouais, on bosse avec deux boîtes de management, qui sont Grand Management et Sierra Management. Et en fait, Grand, moi je travaille avec eux depuis longtemps parce qu'ils me représentent pour mon projet Sage. Et Olivier, qui est un des deux fondateurs de Grand, était notre manager avec Revolver. Donc c'est quelqu'un qui me suit depuis quinzaine d'années, quoi, donc que je connais très très bien. Et Sierra, c'était deux anciennes filles qui travaillaient chez Grand, qui ont créé leur propre boîte de management. Et du coup, on a eu la chance de pouvoir, par notre indépendance, aller chercher un peu les gens individuellement presque, enfin choisir un peu, constituer une espèce de dream team comme ça, de gens qu'on connaissait, qu'on avait avec qui on avait envie de travailler.
Grâce à votre réseau aussi, parce que vous aviez
et parce que voilà, ça fait longtemps qu'on est dans ce milieu là et après l'objet en soi, musique, image, tout ça, c'est aussi des choses qu'on a fait beaucoup nous-mêmes, ou par exemple l'image, on a un peu le cinquième membre du groupe qui s'appelle Mathieu Torres, qui est un de mes meilleurs amis, qui est devenu un peu un de nos meilleurs amis à tous. C'est quelqu'un qui fait toute l'image du groupe, donc il fait à la fois les photos, les clips,
l'humour parce qu'il est extrêmement drôle, c'est la personne la plus drôle du monde.
le logo, il fait des dessins, c'est ça aussi, c'est que on n'aurait pas pu se permettre d'aller mettre je sais pas combien de milliers d'euros dans un clip pour que ça soit vu 500 fois. Donc c'était aussi l'idée de créer un peu avec les moyens du bord. Et la musique, on l'a enregistrée à mon studio, donc on n'avait pas besoin non plus d'aller
faire des sessions
qui coûtent hyper cher à la journée, et on a pu prendre le temps de le faire. On a essayé de trouver, entre guillemets, l'économie qui était la mieux, la bonne échelle par rapport au groupe et par rapport à là où on en était. Donc et je pense que c'est important, parce que plus on va prendre des risques, plus on va avoir envie de peut-être d'aller saisir un peu des opportunités qui sont pas forcément des bonnes idées, ou d'aller chercher le remix qui va peut-être faire que ça va un tout petit peu mieux marcher, mais qu'en fait après les gens ils vont plus écouter ta musique parce qu'ils vont avoir l'impression que t'as changé. Enfin donc c'est un mélange, c'est des choses qui se réfléchissent, ça se fait pas tout seul.
Ce qui est un peu paradoxal, parce que j'aimerais bien voir aussi le regard de Nico, parce que cet aspect collégial au niveau artistique que Daz notamment avait pointé du doigt, etc., on l'a complètement compris. Sur ces aspects-là, est-ce qu'il peut y avoir aussi une part collégiale? Parce que tous les musiciens n'ont pas envie, honnêtement, de mettre un peu le nez là-dedans. C'est de se dire, ok, bon, comment on finance notre projet, comment ça va se passer au niveau des RP, etc., est-ce qu'on va faire un peu de presse et tout. Il y a des gens qui disent, j'ai pas envie de m'occuper de ça, et inverse, d'autres qui ont envie d'être investis.
Comment c'est partagé?
Et vous, au sein du groupe, par exemple, toi, c'est un truc qui te plaît, tu mets ton nez dedans. Ambroise, on a compris qu'il était déjà connecté, on a même l'impression que t'as une forme d'intérêt, ou en tout cas que t'as un truc que t'as envie de porter aussi, cet aspect d'entourage. Est-ce que c'est le cas des autres gens dans le groupe?
En fait, j'ai l'impression que les décisions se prennent toujours. On a des cercles, c'est-à-dire qu'on a le noyau du groupe et dans lequel, là, pour le coup, on parle très ouvertement de tout. Et puis après, ça grossit. On a Mathieu, c'est le premier noyau qui fait toute l'image, mais c'est vrai que
c'est le ciment.
On élargit ça, mais colle la peg. Et en fait, il se passe un peu la même chose avec le management. Et puis, pour ce qui est des sujets en particulier, on a forcément tous nos affinités. Je sais que, par exemple, les réseaux sociaux, c'est un vrai sujet. Moi, à titre personnel, c'est pas mon truc préféré. Je participe. Mais je sais que même techniquement, Je suis clairement moins bon que
à côté.
Ça se passe sur Internet.
Non, mais je suis, Zoé et Théo, elles sont clairement le niveau du dessus. Et en fait, on met tout ça en commun. Je sais que pour moi, ça peut m'arriver de m'investir plus sur des trucs graphiques avec Mathieu, par exemple, parce que j'aime bien ça, que j'ai une sensibilité là-dedans. Après,
t'as même des connaissances techniques.
Des petites compétences. C'est, en fait, chacun met ses compétences là où il peut. Après, tout le monde a voix au chapitre aussi. Ça veut dire que c'est pas parce que t'es pas graphiste que t'as pas le droit de dire que ça te plaît pas la pochette. Quoi. Donc il y a un moment, voilà. Et en fait, ça s'étend de la même façon pour tout. Et je pense que notre équipe de management est vraiment super pour ça parce que déjà, c'est pas une personne, c'est pas mal de monde. Avec, pareil, eux, ils ont des spécialités. Et du coup, c'est pas des décisions qui sont prises unilatéralement. C'est à nouveau des décisions collégiales. Mais forcément, il y a quand même quelqu'un qui est un peu plus en charge de tel ou tel sujet et qui va donner son avis sur la question. On a le droit de répondre, on a le droit de dire ce qu'on veut. On peut se retrouver à nouveau juste à quatre pour rediscuter de ce sujet-là en particulier, qui est une vraie question à ce moment-là. Pouf. Et puis, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc très familial avec des petites sous-réunions qui font que tout se passe bien, quoi. Et qu'on arrive à très bien. C'est assez fluide en termes de communication.
Est-ce que ça serait pas quelque part ça l'esprit de gauche?
Ah, peut-être, peut-être.
Mettre les choses en commun.
La vraie gauche.
Pas être forcément tous d'accord, mais pour l'ensemble, des fois, on
se tait.
On se tait. C'est beau. C'est
tu
beau.
Pense à des gens en particulier.
Ouais, bref. C'est un autre compliqué. Non, du coup, est-ce qu'il y a des moments où il y a vraiment des compromis à faire ou...
Tout le temps, tous les jours.
Non, non mais genre par exemple sur le groupe, il y a trois personnes qui vont dans une direction et qui tirent un peu une quatrième qui serait pas forcément aussi motivée.
Ça arrive, mais rarement pour des choses essentielles. C'est-à-dire que ça va arriver pour, je sais pas... un truc de planning par exemple, genre ça serait cool qu'on se voit à ce moment-là, ah ouais ça m'arrange pas, ça serait quand même vraiment bien parce que sinon après ça repousse à je sais pas quand. Ouais. Donc on essaie quand même effectivement de trouver des compromis dans des dimensions plus de... Après parfois sur certains sujets, je sais pas, d'image ou de choix, on va... Il y en a qui vont être très convaincus d'un truc et d'autres non. Et...
Il va falloir les convaincre.
Et donc voilà, on discute, mais en fait... en général, quand il y en a un ou quatre qui est vraiment sûr de quelque chose, c'est-à-dire qui est sûr de pas aimer quelque chose, on va l'écouter, on va pas le forcer. Ouais, il y a un peu de ça et aussi on sait parce que c'est des bombes à retardement en fait, c'est-à-dire que
comme ça et puis ça va te péter.
Exactement, c'est jamais ça crée des rancœurs.
Ça, c'est l'expérience des groupes multiples.
Je pense que il y a de ça, non mais c'est vrai, c'est que faut être vigilant à tous ces trucs-là parce que c'est un équilibre un peu magique de ce truc d'être chacun à l'aise individuellement au sein d'un collectif et de...
C'est la question que j'avais justement. Est-ce que les quatre membres ont la même envie ou est-ce que chacun en fait la même vision du groupe? Parce que par exemple, on l'a vu hein, dans plein de formations où tu as des groupes et des sous-groupes et puis finalement, c'était une équipe de quatre, mais en fait sur les quatre, il y en avait un qui était très motivé, l'autre qui avait déjà deux pieds dans deux autres groupes et au final, le truc se délite. Est-ce qu'il y a un esprit de corps quand même qui fait que, on est tous synchronisés sur l'importance qu'a le projet par rapport au reste de la carrière, etc.
Déjà, tous bien occupés à côté hein.
Ouais, alors après, c'est un truc d'alignement de planètes aussi par moment. Mais en fait, ça va un peu dans le sens de la question précédente. Je trouve que au-delà de plutôt avoir des droits de veto ou des choses comme ça, ou des problèmes d'alignement, j'ai l'impression que souvent, nous, ce que ça nous a permis de faire, le groupe, c'est plutôt dans cet équilibre un peu magique de bonne entente, c'est plutôt... dans des moments plutôt fragiles de proposer des choses du bout des lèvres parce qu'on croit à un truc et puis mais on n'est pas sûr de soi savoir que en face ça va être écouté et qu'en fait il y a une force en face qui fait que si c'est une bonne idée, bah pouf, ça sera poussé par tout le monde.
Ouais.
J'ai l'impression que plus que de se fermer des portes en groupe, ouais, on a plutôt
plus
tendance
à
aller tirer tout le monde vers le haut.
Ouais.
Et ça, c'est quand même plutôt assez intéressant.
Ouais, et puis je crois qu'on a tous l'envie que ça devienne un projet qui nous occupe le plus possible.
D'accord. En fait, c'est ça aussi.
C'est-à-dire qu'on n'est pas, il n'y en a pas un pour
c'est
qui
pas un
c'est
hobby,
son. Voilà.
Ouais.
J'ai l'impression que, et je parle, on parle un peu au nom de Zoé et Théodora aussi, mais c'est vrai que on a tous à cœur que ça devienne notre presque seul et unique projet, en tout cas temporairement peut-être.
Okay. C'est assez structurant.
Et c'est de plus en plus vrai vu que tout le monde compose, chante et est impliqué. C'est pas juste moi qui fais mes chansons et genre qui vous réunit pour faire les concerts ou c'est vraiment on.
Et pourtant ça avait démarré comme ça.
Ça avait démarré comme ça, mais en fait c'est vite devenu autre chose. Et aussi moi si j'ai arrêté de faire de la musique tout seul, c'était précisément parce que j'étais malheureux seul à faire ça et que je me sens infiniment plus à ma place dans un groupe que tout seul. Mmh. Et après, peut-être que quand on aura fait 3 albums, 4 albums d'affilée, on aura envie de faire un peu un break. Et, non, mais on aura peut-être envie, en réaction, de faire des choses un peu chacun dans son coin, sans pour autant... l'avenir est souvent plein de surprises. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment hyper heureux de se retrouver à chaque fois et de penser à la suite et de faire des concerts et de faire des albums et tout ça. Donc, j'ai l'impression qu'on est tous à l'aise là-dedans et qu'on s'occupe pour chacune d'entre nous une place vraiment centrale.
D'autant plus que, en fait, j'ai l'impression que ce groupe, il réunit aussi, il complète la boucle pour nous tous de... Ambroise, toi tu travailles pas mal pour d'autres artistes comme compositeur, arrangeur, réalisateur. Les autres, Théo, elle a son projet solo. Zoé et moi, on joue beaucoup pour d'autres gens en live. Et en fait, là, j'ai l'impression que ça nous permet de tout faire dans la même unité. C'est-à-dire qu'on peut tous écrire, tourner, enregistrer, il y a quand même ce truc de l'ensemble et de pas être tout seul face aux décisions. C'est-à-dire que il y a ce truc de groupe qui est génial en plus, c'est que on sera jamais tout seul. Et du coup,
c'est comme un peu un mariage tardif. C'est-à-dire que chacun a eu le temps de faire sa vie, son chemin, et au final...
Après 3 divorces, c'est bon,
c'est la bonne
personne. Vrai, quand tu te mets en couple plus tard, du coup, tu le fais pour les bonnes raisons, quoi. Tu vois.
Peut-être.
Non, mais je pense que du coup, c'est vrai que ça a tendance à tous aussi nous motiver énormément. D'une, c'est... je pense qu'on pense jamais à ça le matin en se levant. C'est juste qu'on va retrouver les copains au studio... écrire des nouvelles chansons ou partir en tournée, faire des concerts, et c'est génial. Enfin, c'est notre meilleure vie.
Est-ce qu'il y a aussi une réalité d'ordre économique dans la multiplication des projets? Alors, tu disais par exemple que l'un des buts, si on comprend bien, c'est de pouvoir se consacrer le plus de temps possible à Astral Bakers, que tous les membres du groupe sont à peu près dans cette idée-là. J'imagine qu'il y a aussi il y a eu une contrainte probablement économique qui fait que vous avez encore besoin d'avoir plein d'activités différentes. Ou est-ce que c'est aussi une question de vous envisager votre métier de toute façon en ayant plein de trucs à droite et à gauche, est une obligation quand on est musicien. Parce que toi, par exemple, Ambroise, t'as co-produit même, co-composé même des morceaux pour les 2 albums de Clara Luciani. Toi, tu disais que tu accompagnes aussi des acteurs majeurs de la musique en France.
Majeurs.
Non, c'est vrai. Non, mais
majeurs au sens qu'ils ont plus de 18 ans.
ce que je veux dire,
pas
c'est
que vous êtes des mineurs.
Ça serait bizarre. Vous êtes tous très installés. Vous dégagez forcément une économie de ces activités-là, etc. Est-ce que c'est la raison pour laquelle aussi vous multipliez les expériences ?
Je dirais que c'est à la fois une nécessité, effectivement, d'avoir plusieurs casquettes, mais aussi une chance, une opportunité, parce qu'en fait, c'est hyper enrichissant de passer d'un rôle à l'autre, de connaître à la fois le rôle d'artiste et le rôle de réalisateur, de, d'être à la fois dans l'ombre et parfois dans la lumière. C'est hyper enrichissant et de bosser, comment dire, dans des styles de musique très différents aussi. Parfois, ça fait qu'on arrive plus à se concentrer dans un certain univers, quoi. Et par exemple, quand je travaille avec Clara Luciani, je sais que je vais chercher des choses en composition qui ne sont pas des choses que je cherche avec les Astral Bakers, qui sont très différentes et que je, du coup, je peux exprimer quelque part une part de, ma, de mes goûts, de ma créativité là-dedans et autre chose avec les Bakers. Et en fait, ça, c'est hyper enrichissant parce que du coup, ça permet que chaque projet... va quelque part plus loin dans, sa, dans son propre domaine.
Vous avez l'impression que vos différentes activités, à chaque fois, elles nourrissent les autres? Ça se passe vraiment comme ça?
En tout cas, pardon, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut avoir bien conscience que tout ce qu'on fait nous nourrit, qu'on le veuille ou non. Donc, il faut faire attention à ce qu'on choisit de faire. C'est-à-dire que si à un moment, on fait des projets pour des raisons purement économiques, mais qu'on n'approuve pas du tout... Bah, ça laisse des traces et il faut faire attention à ça, de ne pas accepter tout et n'importe quoi.
C'est arrivé ?
Bah, le moins possible, mais les rares fois où ça m'est arrivé, je me suis vraiment dit, ok, plus jamais, en fait, ça ne vaut pas du tout le coup. Et j'ai l'impression qu'on est plus forgé parce qu'on refuse que parce qu'on accepte. Et que c'est plus risqué à un moment de dire non à quelque chose pour se laisser la possibilité de d'être libre pour quelque chose de mieux ou quelque chose qui nous correspond plus.
Dans un métier où refuser du travail, c'est quand même un luxe quelque part, enfin, qu'on s'accorde parce que c'est quand même pas évident de vivre de la musique, enfin, que ce soit en tournée ou toi comme compositeur ou studio, c'est quand même ouais, un métier qui n'est pas évident. Bien sûr. Et moi, je pensais, c'est marrant, je pensais direct plus à l'artistique pour les projets qui nourrissent les autres. Et en fait, moi, j'ai l'impression que d'une, à chaque fois, en tout cas en tournée, à chaque fois que j'accompagne un nouveau groupe, j'apprends énormément de trucs parce que déjà, ils écrivent pas comme toi. Donc, en fait, tu... C'est une autre approche de la musique. T'apprends même sur un instrument que tu connais, tu vas pas jouer les choses de la même manière parce que ça a été fait d'une façon parce que le guitariste il a son style ou la personne qui a joué les claviers a son style aussi. Et puis du coup, toi c'est pas du tout ta façon de jouer. Faut apprendre ce truc-là. C'est hyper enrichissant parce que ça débloque des niveaux quoi. C'est rigolo. Et puis après, t'as des recherches de matière, par exemple. Moi, je sais, à titre perso, notamment pas mal sur la tournée de November Ultra, le live était très, très dépouillé. Il y avait vraiment très peu de choses. Et il fallait faire beaucoup de textures de matière comme ça. Et je sais que je me suis vraiment cassé la tête pour trouver des solutions pas trop foireuses de technologie compliqué, mais plutôt très organique, mais pour faire des sons, de la texture, de la matière, des trucs comme ça. Et en fait, cette recherche-là, qui m'intéresse depuis toujours, je sais que ça sert énormément dans ce que je fais à la guitare avec Astral Bakers, parce que c'est du bidouillage beaucoup, et en fait, tout ça, c'est... je pense que je serais parti de zéro avec... enfin, j'aurais sans doute pas pris la même direction, en tout cas, si j'avais pas eu l'occasion d'expérimenter ce truc-là. Puis finalement, ça marche bien, en fait, c'est cool. Hop, et tu finis par trouver des choses comme ça. Et en fait, à chaque fois que tu travailles avec de nouvelles personnes, t'as envie de faire des nouvelles choses.
Ouais, donc c'est pour vous aussi une situation très confortable de faire votre truc ensemble et de continuer à explorer à droite, à gauche, chacun de son côté. Ça sert au collectif, quoi.
Ouais, c'est vraiment enrichissant.
Si ce n'est pas le but final. Mais...
Non, mais c'est vrai que peut-être que le but, c'est de réussir à ce que...
L'équilibre, en tout cas, soit différent.
Ouais, que l'équilibre soit... En tout cas, l'équilibre actuel, il est pas mal parce qu'on passe quand même pas mal de temps ensemble à faire de la musique. Maintenant, c'est faire peut-être plus de concerts, c'est peut-être essayer d'atteindre un plus grand public, mais c'est, on sait aussi que ça prend du temps, qu'on fait une musique qui demande un certain, comment dire, état d'esprit quelque part, parce que ça peut pas être quelque chose qu'on capte comme ça au milieu d'un je sais pas, enfin, ou peut-être, mais en tout cas, on n'a pas envie de précipiter les choses non plus. Mais peut-être qu'on n'a pas forcément envie non plus d'enlever tout le reste, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait à côté, c'est pas quelque chose qu'on fait uniquement parce qu'on est forcé de le faire, c'est aussi quelque chose qui nous complète et qui est enrichissant. Donc, et de la même façon, Théodora, par exemple, elle a son projet solo, et je pense pas qu'elle compte l'arrêter définitivement pour faire que les Astral Bakers, et c'est plus une question de trouver le bon timing, en fait, et de réussir à ce que on soit tous concentrés au même moment, en fait, sur le projet, qu'on puisse avoir les mêmes espaces un peu de respiration, et que ça devienne pas un truc qui s'empêche.
J'ai une dernière question et peut-être qu'on pourra conclure ensuite. Ouais. Sur la production de l'album, la production au sens qui le sort, qui est le producteur. Est-ce que si on est sur de l'autoproduction, est-ce que donc ça a été enregistré dans ton studio, l'intégralité vraiment?
Ouais, vraiment l'intégralité.
Okay. Donc vous êtes vos propres producteurs ou un label vous accompagnait pour ça ou...
Moi j'ai ma structure. Okay. Donc en fait c'est techniquement mon label qui produit le groupe, mais mon label ne produit que Astral Bakers. c'est une structure à la base qui est plus une structure pour mon travail en tant que réalisateur et pour créer un peu une entité pour l'endroit du studio. Et donc c'était pas forcément une volonté pour moi de créer un label pour signer plein d'artistes et me reconvertir comme directeur de label. Mmh. Mais et disposant de cette structure et de ce studio et de toutes ces, on va dire, possibilités là, ça a permis de produire effectivement le disque, d'aller chercher même, je dirais, des subventions, de pouvoir avoir cet entourage de management et d'attacher un distributeur, de constituer une équipe. Et on va dire que ça permet de... C'est comme un investissement, quoi, le travail que j'ai pu faire à côté. Et pour chacun d'entre nous, tout le travail que chacun fait à côté, et on va dire l'argent qu'on met de côté qui permet de passer du temps à être sur un projet qui ne va pas nous rémunérer tout de suite, c'est cet équilibre-là, en fait, qui pour l'instant fonctionne, quoi. Et avec le côté label, c'est tout le travail que je fais comme compositeur pour d'autres artistes qui permet à un moment de faire vivre le projet.
C'est-à-dire que dans le monde de la musique, on le voit dans d'autres industries, il y a des projets en fait qui permettent de faire vivre économiquement d'autres projets. On les fait limite à perte, mais parce que on a assez bien gagné sur un autre projet.
On appelle ça des danseuses.
C'est ce qui se passe pour toutes les boîtes, en fait, que ça soit des tourneurs. Souvent, ils ont un artiste, on va dire, un peu tête de gondole. Et ça va être pour eux des leviers de négociation auprès de festivals, par exemple, en disant Dudule il va venir jouer, mais par contre ça me rendrait service, etc. Et dans les labels, même chez Universal ou les majors, il y a souvent des artistes qui font vivre un peu la boutique et puis qui permettent de prendre plus de risques à côté.
Et donc trouver le prochain qui fera vivre.
Exactement.
Donc il y a un moment.
C'est un investissement, mais c'est une prise de risque, mais c'est pas que pour la beauté du geste.
Ouais.
C'est aussi.
Oui, dans ce milieu-là, il y a un peu de calcul quand même.
Il y a du calcul, et puis après, il y a aussi des économies, c'est-à-dire différentes, enfin des échelles d'économies différentes. Mm-hmm. C'est-à-dire que nous, pour être rentable, ça va pas être aussi. On va pas avoir besoin de vendre autant d'albums que Clara Luciani pour rentabiliser les investissements.
Parce que la production a coûté moins cher, tout simplement.
Parce que la production a coûté beaucoup moins cher, parce que les clips ont coûté beaucoup moins cher.
La promo coûte moins cher. Le live coûte moins cher.
Ouais.
En fait, tout est.
Non, vous êtes quatre, alors qu'elle est seule.
mais on est quatre, mais on est tous dans le membre du groupe, donc en fait, on accepte d'être payé très peu, et aussi on a peu d'équipe technique. elle ou d'autres artistes de cette échelle-là, quand ils partent en tournée, c'est avec 4 semi-remorques et 3 tourbus. Et puis, donc c'est
pas du
tout.
Elle est seule, je rappelle.
Ouais, mais sur scène, elle doit être accompagnée par des milliers de gens. Quoi.
Donc c'est comment réussir un peu, je crois, à trouver, on va dire, le bon équilibre. C'est-à-dire que si on. Ça n'a pas de sens, par exemple, de produire un truc complètement autoproduit et de se dire je vais dépenser 20 000 euros pour faire un clip. C'est...
Il y en a qui peuvent penser que...
Sauf si, par exemple, c'est ce que faisait Woodkid au départ quand j'ai travaillé avec lui, c'est qu'il misait tout sur ses clips. Mais parce que c'était un génie de l'image qui s'est dit ce sont mes clips qui vont faire parler d'eux avant même que la musique. Et donc lui, il avait cette intelligence-là et ce savoir. Il est réalisateur avant d'être musicien. Donc il y a tous les cas de figure, mais
c'est pas une norme. Ouais.
C'est un cas particulièrement un peu exceptionnel parce qu'il a c'est une des personnes qui a pris le plus de risques financiers que je connaisse. Mais en général, c'est vrai que faut pas non plus faire all-in sur un truc accessoire quoi.
Je suis tombé sur un thread Twitter d'ailleurs d'As, tu vois, il y a pas long, hier ou avant-hier de quelqu'un non mais qui me paraissait assez okay. juste qui parlait de l'économie des labels indés ouais. et en disant que beaucoup de gens un peu extérieurs ou qui commencent ont pas conscience en fait déjà que c'est une galère absolue de gagner un peu d'argent avec de la musique
bien sûr.
Pour la plupart des musiciens en réalité après il y a des échelles évidemment énormes etc mais c'est absolument pas la norme et que dans un premier temps en fait les sous qui peuvent être mis sur des clips sur de la com etc beaucoup d'artistes débutants doivent faire attention à la maîtrise de leur budget parce qu'ils foncent droit dans le mur en investissant trop sur ces éléments qui en fait sont difficiles à rentabiliser réellement.
Ça, tu vois,
tu peux pas en débarquant mettre 2000 euros sur de la com, 5000 sur un clip ou 10 000, etc. Enfin,
c'est la même chose dans mon petit milieu. Ouais. C'est ce que j'arrête pas de dire aux gens en fait. Commencez pas à vouloir vous monter un studio chez vous de streaming avec un DSLR comme ça, avec des lights de professionnels et un micro à 700 balles, tu vois. Parce que sinon, vous allez être déçu. Quand vous allez mettre tout ce qu'il faut comme investissement autour du truc et vous rendre compte que une carrière, ça décolle pas comme ça et qu'il va falloir charbonner, y a des gens qui peuvent mal le prendre en se disant je comprends pas, j'ai tout ce qu'il faut pour être pro, tu vois. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu dans tous les milieux un peu créatifs, artistiques.
Mais à la différence près que. Oui, tu as raison, dans les milieux artistiques, créatifs. Parce que tu sais, il y a toujours ce. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a aussi toujours ce fantasme de la réussite qui habite quand même ces milieux aussi. Et...
Alors, moi, je pense qu'il y a quand même aussi un rapport d'échelle de la réussite parce que en fait, il y a énormément de gens qui ont réussi dans la musique, par exemple. Et qui sont pas Taylor Swift pour autant.
Bien sûr.
Et tu peux.
Oui, t'es pas obligé d'être une
méga star. C'est Rihanna
The Weeknd.
Oui, c'est clair. Oui. Il y a aussi effectivement.
En fait, il y a des.
Un milieu.
Mais
où tu peux
en fait,
décemment.
Et c'est un rapport d'échelle. Ça veut dire que et là on en revient à ce que disait Ambroise tout à l'heure, c'est que Taylor Swift pour faire le disque, ça coûte pas le même prix. C'est pas les mêmes investissements dans la vidéo, c'est pas les mêmes investissements dans la promo, dans le tour. Là, on a vu les images de la tournée récemment, c'est hallucinant.
Et enfin, les foyers Covid aussi hein, qui ont découlé de cette tournée, bravo.
En fait,
elle a un impact sur la sécurité sociale, je sais pas si vous imaginez ça.
Elle a un impact sur les élections américaines.
C'est vrai.
Potentiel.
C'est vrai.
Donc en fait, c'est une échelle. Je pense qu'il y a des gens qui sont indés. À l'échelle américaine, par exemple, qui vivent extrêmement
bien sûr.
Qui sont indés, considérés comme indés, mais c'est une grande réussite pour autant. Et en fait, nous, il y a beaucoup de groupes qui sont des références pour nous, et c'est vrai que c'est souvent des groupes anglais ou américains qui sont clairement des groupes indés. Et d'ailleurs, tu regardes leurs réseaux sociaux, c'est catastrophique.
Bah ouais.
Parce que, en fait, ils suivent pas du tout la règle de justement de la grande réussite et du grand enfin des numéros 1 quoi.
Et puis c'est des gens qui joueront jamais dans des zéniths ou des
oui.
mais par
des,
contre qui feront
Bercy,
qui feront des maroquineries mais dans plein de pays et dans plein de villes.
Bien sûr.
Oui, il y a un circuit
et qui font tous les festivals l'été inter quoi, enfin.
Et donc c'est vrai qu'il y a vraiment plusieurs échelles. C'est
Et vous c'est ça que vous voulez pour
les zéniths quand même. J'ai les capitales du monde, oui. Bah, en fait,
l'Inter, c'est génial. C'est un objectif clairement. enfin...
Ouais, d'aller dans d'autres pays. En fait, on s'interdit rien, mais on n'a pas des ambitions. En fait, pour avoir fait des tournées aussi dans des très grandes salles type Zénith, Bercy et tout, c'est adapté à une certaine musique et à une certaine dimension de spectacle.
Ça ne fait pas forcément avec tout.
Et en fait, avec notre musique, ce serait hyper triste parce qu'on perdrait complètement tout le.
Côté chaudron, l'énergie,
tout l'aspect, voilà, de contact, de proximité, d'intimité. Alors, je ne dis pas qu'il faut jouer que devant 20 personnes à chaque fois, mais il y a des échelles de salles type Cigale, genre de truc, où à la fois, c'est quand même quelque chose d'assez spectaculaire. C'est une grande salle, il y a des vibrations et tout.
Mais ça reste...
Et ça reste intimiste. Et
il n'y a pas de distance avec le public.
Et le son peut être très bon et l'expérience peut être bonne et humaine.
Vous
ne voulez
pas jouer dans un stade, quoi.
Non, mais si ça devait arriver, on dirait peut-être pas non.
Si mais... ça fait beaucoup d'argent. Non, mais je suis d'accord avec toi. Il y a aussi un moment où de l'indé de Zénith, c'est Arcade Fire. Pour moi,
c'est déjà Radiohead,
si on peut dire encore un D à
et
ce
encore
moment, voilà,
je
mais
crois
ouais.
que si je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que le groupe The Smile a été monté pour refaire des tournées à une échelle plus petite,
plus humaine,
parce que ils en avaient un peu marre de faire que des gros machins et que ça a foiré parce que ça marche vachement bien The Smile, je crois. Mais dans l'idée, je pense qu'il y a aussi un rapport au-delà de toute considération financière, il y a un rapport physique et je sais pas, à la musique et à ce qui se passe et à la communion avec le public et à ces moments de musique où passer une certaine échelle d'un certain format de salle, tu perds quand même un peu ce truc-là.
Ouais,
en fait, mécaniquement, ça devient quand même mieux d'avoir des ear monitors, par exemple, parce que l'acoustique de la salle, ça marche plus pareil. Tu joues au Zénith, tu entends deux fois ce que tu joues. Tu l'entends à ton ampli, puis tu l'entends une seconde après, quand ça revient de la salle. Donc, en fait, tu es dans un inconfort aussi qui génère d'autres contraintes techniques. Et c'est peut-être pas là où tu rêvais d'aller quand t'as démarré la musique avec tes potes dans la même salle à jouer à des petits niveaux et puis c'était super.
Mais c'est intéressant d'avoir conscience de ça pour savoir jusqu'où tu as envie d'aller. Le tout, c'est qu'effectivement tout le monde soit synchrone avec ce truc-là.
Ça, c'est vrai.
Après les Zéniths, ça serait pas grave. Hein.
Malgré la seconde de délai là. Bon.
On s'habitue vite. On s'habitue vite.
Un petit slap back, c'est pas de mal.
Ok, donc au moins Zénith.
En fait, on réfléchit pas trop comme ça.
Ouais.
Parce que on se dit plus que on essaie de faire la meilleure musique possible et après on n'essaie pas de calibrer tellement les choses et puis rien peut se prévoir vraiment comme ça. C'est que parfois. On va croire beaucoup en une chanson, en une idée, et puis c'est pas celle-là qui va marcher, ça va être une autre parce que je sais pas qui aura flashé dessus. Enfin, c'est que des petits événements un peu souvent assez surprenants. Et ensuite, on sait que, je sais pas, on fait cette musique-là aussi pour être en contact avec quelque chose de réel, d'une proximité. Enfin, moi, en tant que spectateur, les meilleurs concerts que j'ai vus, ça n'a pas été dans des très, très grandes salles.
Ouais, souvent, c'est le cas. Hein.
Et du coup, après, c'est sûr que c'est tentant de progresser, de passer des caps. Mais en tout cas, je crois qu'on essaye d'être philosophe par rapport à ça et de se dire qu'en fait, on a déjà tellement de chance de faire ça entre nous, d'aimer le faire et d'aimer passer du temps ensemble. Qu'après tout le reste, ça viendra ou pas, mais en tout cas, faut pas être dans la frustration, quoi. C'est ça. Ouais.
Puis rappeler peut-être pour conclure juste que c'est un enseignement de cette émission d'Az en fonction des invités qu'on reçoit et tout.
Bien sûr.
Qu'il y a plein de modèles en fait différents dans la musique. Vous avez évoqué les échelles différentes. Ambroise, t'avais amené ça sur le tapis et c'est une réalité. C'est-à-dire que tu peux être très niche et avoir une communauté très fidèle, très investie, qui va te permettre de vivre à travers tes tournées ou ton merch, même si c'est à toute petite échelle, etc. Il y a plein de
façons. Oui, pas viser tout de suite toujours le stardom. Ouais,
et puis globalement d'ailleurs, en fait, on est dans un. Alors, il reste la puissance des majors, il reste la puissance d'artistes importants, etc., indéniablement, mais on est quand même à une tendance à la fragmentation, globalement, des univers musicaux, etc., y compris des business models aussi, je pense, en tout cas.
Et puis les gros stars en général sont très inspirés par des choses qui sont arrivées un petit peu avant et travaillent souvent avec des gens qu'ils aimaient bien aussi parce que pour avoir ce son-là et tout. Donc tu prends dans la musique électronique, tu prends Aphex Twin, ça sera jamais Rihanna ni Taylor Swift. Et en même temps, Aphex Twin, ça fait partie de l'histoire de la musique. Donc c'est...
Oui, il y a de la place pour
tout le monde.
Plein de trucs, ouais, bien sûr. C'est beau.
Ambroise, c'est beau comme quoi.
Il y a de la place pour tout le monde. Si ça, ouais, c'est pas moitié
vrai. En vrai, si vous voulez faire le relou, tu vas dire. Non, je suis pas sûr qu'il y a de la place pour tout le monde.
Arrêtez de là-dessus. Tu auras encore parlé de René Latope. Mais non, là, il faut rester dans l'unité. Là, non, c'est bien. Il y a de la place pour tout le monde. Le pays est grand.
Ambroise, Nico, merci beaucoup. C'était super sympa.
Merci.
Astral Bakers, on fait un coucou aussi. Avec plaisir. Un coucou aussi à Zoé et Théodora qui n'ont pas pu être là, mais qui font partie du groupe également. On a une tradition dans cette émission, c'est de terminer avec des recommandations. Alors, on vous a pas prévenu à l'avance.
Mais oui, moi non plus, okay. J'ai oublié.
Et tu sais que moi, j'en ai pas non plus. Alors, je vais le faire. Bah, non, mais on va trouver rapidement.
Moi, j'ai une recommandation, si vous voulez.
C'est vrai, on termine avec un morceau chacun, un morceau de musique. On s'écoute un extrait.
Ouais,
qu'on a envie de faire découvrir aux gens.
Alors, moi, ce serait un morceau d'un artiste qui s'appelle Sam Evian.
Ok.
C'est moi qui le prends. en fait, c'est un musicien américain. Okay. Qui est à la fois chanteur, enfin compositeur, artiste, et aussi réalisateur, donc il y a un peu ce côté de double casquette. C'est lui qui a mixé notre premier album, et on revient de chez lui, on est revenu ce week-end, là, on est parti, donc lui il est dans le nord de New York, enfin de l'état de New York, il est à 2 heures de la ville en gros, dans un coin qui s'appelle les Catskills, qui sont un peu une sorte d'Ardèche version américaine.
Okay.
Et on a passé 2 semaines là-bas, dans son studio, à enregistrer ce qui va être le deuxième album. Okay. Et il a sorti un disque il y a pas très longtemps. Il joue à Paris à la rentrée au Café de la Danse.
Très bien.
Et le morceau que j'aimerais qu'on écoute, c'est Rolling In.
Eh ben, écoute, sur l'album Plunge, qui est effectivement sorti en mars dernier. Rolling In, ça m'est bien. Penser dans le timbre de voix et le traitement, les effets, etc. Ça me fait un peu penser à MGMT, je trouve.
Un peu, c'est vrai, il y a un petit truc
comme ça.
Ouais, carrément.
Ok, ça m'évient. Très cool. Nico, Daz, vous avez trouvé une petite reco,
un artiste qui s'appelle Arthur Verocai.
Ok.
Brésilien.
Ok.
Hautement samplable.
Aha.
C'est que je suis toujours dans des recherches.
Sinon, c'est pas dazesque.
Voilà. mais là, contrairement à d'habitude, c'est pas de la soul sirupeuse, c'est de la musique brésilienne. C'est un morceau qui s'appelle Naboca do Sol.
Ok.
Que moi je trouve fumant, en fait, tout simplement.
Et bon, on s'écoute ça.
Allez.
Arthur Verocai, Naboca do Sol.
Bah, c'est parce qu'il fait 47 degrés dans cette pièce.
Mais quand ça fait chaud.
On va mettre une ambiance.
On est bien dedans, on y est.
Ah, c'est très chouette.
Tu vois, très bien. Nico.
Alors.
T'as sorti ton téléphone pour trouver.
Bah, je regarde ce que j'écoute.
Bah, t'as bien raison.
Moi, j'étais sur Fountain D.C.
Ah, très bien, Fountain D.C. Tu sais que je me suis écouté deux de leurs albums la semaine dernière.
Bah ouais, moi aussi, j'écoute beaucoup. Et j'ai un petit plaisir coupable en ce moment, c'est Starbuster. C'est c'est l'avant-dernier titre qui est sorti.
Très bien.
Et qui est assez fun.
Très cool comme groupe, Fountain D.C. Allez, on s'écoute ça, Starbuster. C'est punchy, ça. C'est très bien. Eh bien...
Et toi, alors?
Oui, mais Marocco. Eh bien, c'est un artiste que j'ai découvert très récemment, qui est Guédu Blé Mbolé. Et Guédu Blé Mbolé, c'est une figure, en fait, de la musique ghanéenne, que je connaissais absolument pas. Là, c'est un morceau de 82. Il est un peu dans le délire afrobeat, high life, tu vois, ce genre de truc. Et le morceau, d'ailleurs, s'appelle High Life. Et c'est très, très cool. C'est funky comme je l'aime. Probablement aussi.
Le funk est important pour ça.
Absolument.
Ça, c'est le côté lyonnais.
C'est le côté lyonnais. Et puis, je pense hautement samplable aussi, Daz.
Ouais,
c'était peut-être Daz. Est-ce que tu me diras ce que.
Vas-y, balance.
Allez, je balance.
Funky là.
On est d'accord, oui, ah ouais. Oui, c'est 100%
oui.
Funky.
Ah oui.
Samplable.
Ah oui. Ah oui, oui, oui. Il y en a partout là.
Il y en a partout. Très bien. Bon, ben, il ne nous reste plus qu'à remercier à nouveau Ambroise, Nico, Astral
Merci,
Bakers.
On n'a pas demandé pourquoi Astral Bakers.
C'est vrai.
Ça sera le mystère.
Parce que,
voilà.
Ça sera le mystère de l'émission.
Ils aiment la boulangerie, qu'est-ce que je te dis.
Les pains.
Non, on invite évidemment nos auditeurs, nos spectateurs à écouter l'album. C'est vraiment très bien. Franchement.
Et aller écouter aussi, du coup, toutes les explorations solo de chacun.
Bah, bien sûr. Ah, bah, il y a de quoi faire, là.
Ouais.
Il y a largement de quoi faire. On remercie aussi, bah, évidemment, la team Bouclette, même pour cette saison, puisque c'est le dernier épisode de DLT, le 74. Tu vois, on s'est planté sur la dernière saison. On a oublié de changer. C'est 73 dans le décor, mais on est passé à 74.
74 sur le frigo, c'est 74.
Écoute, tout va bien alors. Ouais. Donc, merci évidemment à Sam, Flav, Iris, là, pour cet épisode, puis à tous ceux qui ont participé aussi. Merci évidemment aussi à François pour le montage de tous les épisodes. Merci à vous d'avoir été là pendant cette saison. On revient très vite. Il y a un épisode qui va sauter, disons. On se retrouve dans un mois à peu près. Là, on doit être début août. On se retrouve en septembre. Ce sera rapide.
Attends, on n'a pas dit merci à la maison mère.
Ah bah, mais ça arrive. Ceux qu'on le remercie réellement, sincèrement.
Ah oui.
Puisqu'il nous paie. C'est Thoman, bien entendu. Est-ce que ça vous arrive d'acheter chez Thoman?
Réponds tout à fait.
Clairement.
On les avait briefés avant.
On les avait briefés avant, bien sûr.
Non, merci Thoman. Merci la vie.
Absolument. Bien content de faire cette émission. On va repartir pour une nouvelle saison. Je sais pas. Je pense qu'on va garder à peu près la même recette. Ça fonctionne comme ça, Daz, globalement.
Oui, tout à fait.
Ouais, faites-nous des retours dans les commentaires et tout. Genre,
ah, c'est vrai que sinon tu rajoutes des trucs. Genre, les recos, par exemple, que c'est un truc que j'ai demandé.
C'est vrai. Ça vient d'écouter, mais surtout des morceaux pendant
Des morceaux pendant l'émission. Parce que lui, il faisait une émission 100%.
Non, bah, résultat, on se fait démonétiser absolument toutes les vidéos.
Oui, mais là, on se dit, peut-être qu'on va pas se faire striker en ayant les artistes qu'on a écoutés.
Bien sûr que si, ça arrive tout le temps.
Ok, mais ils sont un des.
Oui, non, mais après, il faudrait faire une demande.
Ouais, bon, ok, d'accord. S'il vous plaît, ne strikez pas. Quand vous allez avoir un YouTube claim, cliquez pas dessus, dites on s'en fout.
Je suis pas sûr qu'il maîtrise tout à fait tout ça. Mais non, on va voir ce qu'on fait. Mais voilà, si vous avez des idées dans les commentaires, n'hésitez pas. Qu'est-ce qui peut être amélioré? Qui vous avez envie de voir dans l'émission? Tiens, qui on pourrait inviter? Bah, j'ai déjà plein d'idées.
Je préfère qu'on ne demande pas au public, en fait.
Si, mais il y aura peut-être des bonnes idées, on sait pas. Bref, on se retrouve à la rentrée dans un mois, début septembre à peu près. Merci beaucoup de nous suivre.
Bonnes vacances.
Ciao.